Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue sur BFM Business, Radio Télé, les podcasts ensuite, les replays qui vous attendent, en tout cas où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là, vos deux heures de tech du lundi au jeudi. Et en ce jeudi soir dans Tech & Co, eh bien nous allons évoquer ce partenariat intéressant entre Sonos et Deezer, Deezer qui va proposer des radios à Sonos. On va évoquer tout cela avec l'un des dirigeants de Deezer qui sera mon invité. On s'intéressera aussi à quelques jours de l'ouverture du salon d'agriculture, à la ferme digitale et évidemment à la technologie qui arrive dans l'agriculture. Et puis en ce jeudi, nous prendrons le temps pour débriefer l'actu tech de cette fin de semaine, 21h, 22h avec nos experts. On reviendra sur toute l'actu de ces derniers jours qui est évidemment très très riche. Voilà, merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech & Co sur BFM Business et encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actualité de ce jeudi soir, Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Beau comme un dieu ce soir Frédéric. Oui. Si vous êtes avec nous à la télévision, c'est une véritable claque visuelle. Frédéric, dans l'actualité, on va commencer par TikTok. TikTok qui eh bien, va disparaître des smartphones des employés de la Commission européenne.
Oui, smartphone à la fois professionnel et à la fois personnel. Ah, oui. On se dit que ce climat de suspicion qui existe en Outre-Atlantique, on se souvient tous les épisodes avec Donald Trump qui avait même voulu que la division américaine de TikTok bascule vers des actionnaires américains. Il y a Microsoft, Oracle qui s'était manifesté. Bon, finalement, tout ça a été rentré plus ou moins dans l'ordre, mais ce climat de crainte, ces doutes ont continué autour de TikTok aux États-Unis. On a même la banque JP Morgan qui a annoncé il y a quelques heures qu'elle supprimait aussi l'accès à cette application à tous ses collaborateurs. Et voilà, ça arrive en Europe. Alors en Europe, on sait qu'il y a quelques entreprises qui commencent à demander à leurs salariés de faire attention, qui bloquent aussi beaucoup de réseaux sociaux quand c'est interne à l'entreprise. Oui. Là, c'est carrément la Commission européenne qui demande à tous ses salariés, à tous ses collaborateurs, tous ses salariés, de supprimer l'application Pro. Sur pro et sur perso, donc tablette, smartphone, etc. Et ils ont jusqu'au 15 mars pour le faire. Et s'ils ne le font pas, eh bien, il pourra même y avoir des sanctions.
Sanctions.
Alors, les raisons évoquées sont la cybersécurité, hein, et où vont les datas. C'est vrai qu'il y a quelques temps, on avait surpris l'interview d'un des dirigeants de TikTok qui disait, il y a des collaborateurs de TikTok qui ont accès à ces datas, qui voient ce qui se passe, mais ils sont soumis à des règles de confidentialité. Enfin bon, ça n'avait pas beaucoup plu. Le patron de TikTok avait même rencontré Thierry Breton qui lui avait rappelé toutes nos règles, notamment autour du Digital Service Act. Et puis là, je pense qu'ils n'ont pas eu les garanties souhaitées. Et donc, la décision a été de couper purement et simplement l'accès à TikTok en demandant à chacun des utilisateurs de supprimer cette application. Alors, on va voir si c'est juste un premier tir de barrage parce que l'Union européenne la Commission européenne doit montrer un peu l'exemple, ou si ça peut être un véritable coup de semonce.
Ou le début d'une histoire qui risque d'être compliquée pour TikTok.
Après, ce qu'il faut regarder, c'est que les principaux utilisateurs de TikTok, ils sont pas en entreprise. Hein.
Enfin, non.
Beaucoup sont encore.
Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent à la Commission européenne.
Mais voilà.
On est d'accord.
Ils ont quand même des parents salariés.
Quoique, il y a des adultes qui sont sur TikTok.
Ah oui, bien sûr. Mais c'est surtout ados. Alors peut-être que ça va se limiter aux ados. On va voir tout ça. En tout cas, on va suivre ça de près parce que ça pourrait être une décision lourde de conséquences et effectivement, comme on l'entend.
Mais qui alimente certains fantasmes aussi. On se dit, mais pourquoi la Commission européenne oblige en fait ses salariés à désinstaller TikTok? Est-ce que parce qu'il y a des preuves assez forte d'une espèce de surveillance en fait parce qu'il faut savoir que quand vous installez cette application, elle va scruter votre géolocalisation, elle va pouvoir
aussi. C'est surtout
aussi...
ça, c'est toutes les datas qui sont derrière. C'est pas simplement le fait de scroller des vidéos d'influenceurs, de petits chats qui dansent ou de choses comme ça. Non, c'est vraiment la géolocalisation, c'est voir un peu quelles sont vos préférences. Voilà, est-ce que vous préférez regarder des vidéos de bateaux, de choses comme ça. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de datas qui sont récupérés, pas du tout anonymisés. Et là, voilà, ça pourrait intéresser. Puis ça pourrait intéresser surtout sur les tendances de population, voir ce que regardent les gens, en tout cas, à la Commission européenne, c'est niette, plus de TikTok.
Plus de TikTok. C'est dommage. Mais bon, enfin, toi, tu ne travailles pas à la Commission européenne, tu pourras continuer à regarder tes petits chats qui dansent, puisque ce sont tes vidéos préférées.
Je ne l'interdis pas.
Frédéric, je me permets quand même de dévoiler un peu ton intimité. Dans l'actualité aussi, c'est Coca qui s'intéresse à l'IA, l'IA d'un certain OpenAI qui est le conseiller de ChatGPT.
Oui, en fain, c'est à travers le cabinet de conseil Bain Capital que l'on connaît, ils conseillent pas mal d'entreprises. Et eux, ils ont décidé aujourd'hui d'avoir une offre. Ils se sont décidés assez vite, puisqu'on sait, ChatGPT, même si ça existait depuis quelques temps, la version vraiment que l'on voit, nous, aujourd'hui, grand public, ça fait 2-3 mois qu'elle est vraiment opérationnelle et accessible à un peu plus de monde. Donc, Bain Capital a sorti une offre. Ils disent, ce qu'on aimerait, c'est accompagner nos entreprises dans l'utilisation de ChatGPT. La première, c'est dans la création de centres d'appel de nouvelle génération. Il s'agit de pouvoir répondre beaucoup mieux. Voilà, vous avez un souci avec votre assurance. Vous savez, aujourd'hui, quand vous appelez les serveurs vocaux, avant d'avoir la bonne réponse, une fois que vous avez quelqu'un en ligne, ça stresse tout le monde parce que lui n'a pas forcément les réponses, connaît pas parfaitement votre dossier.
Vous êtes obligé de répéter toute l'histoire.
Vous imaginez si vous avez le ChatGPT avec tout à côté, lui ça lui fait beaucoup de travail d'avance, il peut répondre plus facilement, il a des cas, donc voilà, il y a cette première partie. La deuxième, c'est améliorer donc par l'intelligence artificielle les délais d'exécution des opérations de marketing, donc tous les courriers que l'on peut envoyer. Donc ça, ChatGPT peut être utilisé ou DALL-E parce que il parle des trois, c'est-à-dire ChatGPT pour le texte, DALL-E pour les images, et puis le troisième qui est Codex pour le code informatique, et puis c'est aider des conseillers financiers à améliorer leur productivité, leur réactivité. Donc voilà, donc Bain propose cette offre, et l'un de ses premiers clients à s'être fait connaître du grand public, c'est Coca-Cola, donc il va utiliser ChatGPT. Alors, moi, je crois beaucoup à cette solution, mais c'est-à-dire à partir du moment où, parce qu'il va falloir, je pense que ça doit être réglé autour de ChatGPT, c'est où vont les données. C'est-à-dire que tant que les données restent dans une sorte de cloud de ChatGPT privé à l'entreprise, ça peut très bien marcher. Déjà, première chose, c'est l'entreprise qui va alimenter elle-même toute la documentation, tout ce dont elle a besoin. Donc, il n'y aura pas de déviance, il n'y aura pas de risque d'avoir des contenus que l'entreprise ne contrôle pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces data restent au sein de l'entreprise, parce qu'on le sait aujourd'hui, tout ce qui est dans ChatGPT, aujourd'hui, là, tel que quand on l'utilise, tout ça part dans l'espace. Non, ça part dans l'univers ChatGPT. Ils sont bien au courant de tout ce que l'on va faire avec ces data.
Voilà, je suis en train de poser la question, de demander à ChatGPT quelle est la recette du Coca-Cola. Tiens, peut-être, comme ils travaillent avec eux, ils auront cette fameuse recette secrète.
Quelle bonne idée.
Et il me dit non, la recette exacte du Coca-Cola est un secret bien gardé depuis de nombreuses années. Enfin voilà, bon, il ne le sait pas, c'est pas la peine de lui poser la question. Dans l'actualité aussi de ce jour, Frédéric, c'est Apple qui travaillerait en secret sur un nouveau capteur qui pourrait être intégré à l'Apple Watch et qui pourrait mesurer le taux de glycémie. Ce serait une petite révolution médicale.
Oui, avec un procédé non invasif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il existe pour les personnes atteintes de diabète 1, diabète 2, qu'elles peuvent mesurer elles-mêmes leur niveau de glucose, de glycémie, avec une petite piqûre dans le doigt, une goutte de sang, on met ça sur une plaquette, on peut connecter ça à son smartphone et il y a des applications qui vont vous donner tout de suite les taux et puis vous indiquer ce qu'il faut faire si ça se passe moins bien ou vous donner quelques conseils. Là, on est dans une solution non invasive, c'est-à-dire qu'on ne va plus piquer. Le principe, c'est d'utiliser un laser qui va aller, qui va se mettre au niveau de la peau, qui va aller chercher le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est cette espèce de fluide qui est entre les zones capillaires sanguins et puis les cellules. Voilà,
un grand spécialiste, mais tu t'en sors bien.
Voilà, et donc ce laser va aller regarder dans ce liquide interstitiel la concentration de glucose et il va pouvoir comme ça définir le taux de glycémie. Donc l'avantage, c'est qu'on ne doit plus faire cette petite piqûre, c'est que ça peut se faire. Si c'est intégré à la montre, vous l'imaginez, parce que pour l'instant, on en est juste au moniteur. Ça prendra quand même pas mal d'années.
Oui, parce que l'appareil qui existe est assez gros, n'est pas encore miniaturisé pour pouvoir entrer dans une Apple Watch.
Vous imaginez. Pour le décliner pour l'Apple Watch, mais on commence vraiment à rentrer dans des choses. Il faut rappeler, l'Apple Watch lancée en 2015 a commencé à avoir des capteurs de fréquence cardiaque et puis ensuite elle était capable de réaliser des électrocardiogrammes. Ensuite, c'est détecté également des périodes d'ovulation
en détectant la température corporelle.
Exactement, et calculer le niveau d'oxygène dans le sang. Ouais. Et puis surtout, ils ont mis tout un tas d'applications autour qui nous indiquent, si on est à un niveau d'oxygène dans le sang qui n'est pas suffisamment bon, nous dire attention, allez consulter ou alors faites attention, prenez tel type de médicaments. Faites attention à tel type d'activité, etc. Et on est en plus en plein dans les grands axes de développement d'Apple aujourd'hui, qui sont la santé.
C'est vraiment le cheval de Troie.
Ils sont dans le côté environnemental, évidemment, ils travaillent beaucoup dans ce domaine, mais la santé, c'est vraiment le grand sujet. Et vous imaginez la transformation de la... Déjà, les premières ces petits appareils portatifs qui permettent de avec son smartphone de connaître son taux de glucose, mais si ça devient non invasif et la montre vous prévient.
Non, mais c'est clair.
Tout un ensemble de choses. Donc
parce que aujourd'hui c'est très compliqué hein, pour tous ceux qui sont atteints de ce type de maladie, il faut se piquer le doigt. Enfin c'est assez complexe. Là vous imaginez simplement une montre qui pourrait vous donner votre taux de glucose.
Voilà. Et c'est un projet qui est quand même sur lequel Apple travaille depuis 2010 avec une équipe assez importante, hein, qui est plus importante que celle qui est sur le casque de réalité virtuelle. C'est vous dire l'importance donnée. Et pour l'instant, par contre, on n'a pas de date de
sortie. Pas de date encore.
Et je pense qu'il faudra. Quand je dis quelques années, c'est. Voilà, on est en 2022. Allez, on se projette à 2030.
Dans l'actualité, pour terminer, l'un des concurrents d'Apple, c'est Samsung. Vous le savez, en tout cas dans le monde du smartphone, hein, Samsung qui vient de dévoiler son S23 et qui imagine déjà le futur de la téléphonie mobile qui, pour elle, passera par le satellite.
Voilà, vous vous souvenez, l'iPhone 14 qui pourrait avoir une puce qui est connectée à des satellites. Mais là,
pour des situations d'urgence, rappelons-le. Hein.
Par contre, Samsung, lui, il l'a pas encore introduit dans le S23, bien entendu. Mais le principe, vous avez votre smartphone avec une nouvelle puce à l'intérieur qui va se connecter directement au satellite. Le satellite, lui, va revenir sur Terre. Il va se connecter à une station au sol, puisque tout le monde n'est pas doté d'un téléphone satellite. Et depuis cette station au sol, il va envoyer les informations au destinataire. Ça peut être des informations, des textos, dans un sens et dans l'autre. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos. Donc voilà, on entre là dans une autre phase de cette communication par satellite. Alors là encore, c'est un peu comme la montre d'Apple. Pas de date, hein, parce que on est quand même au développement c'est le modem, hein, qui est compliqué à développer. Vous imaginez, bon, parce qu'ensuite, bon, les accords avec les opérateurs, tout ça, ça devrait se faire assez vite. La partie technologique est complexe, mais pas
insurmontable. Pas impossible, puisqu'on voit qu'Apple y arrive.
Mais par contre, c'est la miniaturisation de tout ça, c'est faire rentrer tout ça dans un smartphone.
Ça va être intéressant de voir avec quels opérateurs de satellites aussi Samsung va passer ce deal.
Exactement, puis il faut aussi compter sur tout ce qui est la batterie. Hein. Voilà, si on envoie deux photos et on n'a plus de batterie.
C'est embêtant.
Donc voilà, donc il va avoir, et puis le rayonnement aussi du téléphone, parce qu'un téléphone satellite, ça rayonne quand même un peu plus qu'un téléphone 5G. Mais en fait, c'est vraiment le but de Samsung, c'est j'appelle quelqu'un.
Mais c'est intéressant
5G, que je sois dans le désert, ça, je capte comme si de rien n'était.
Mais
on est vraiment, en tout cas, dans tous ces changements. Il faut savoir quand même que la version Android 14, elle prend en compte, hein, les communications satellites. Donc, si on a un Chrome, enfin un appareil, un terminal Google, dont le nom m'échappe, ben voilà, on peut se connecter déjà. Chromebook, voilà.
Voilà, il faut savoir que cette technologie s'appelle la 5G NTN. Oui. C'est un dérivé de la 5G en fait, qui est émise par les satellites. Et lorsqu'elle sera disponible, cette technologie, et c'est là où Samsung essaie de marquer des points par rapport à Apple, c'est qu'on pourra échanger n'importe quel type de message sans être forcément dans une situation d'urgence. Là, ça peut être des photos, des SMS, des vidéos.
Et puis là, c'est le marché entreprise, hein, qui va être cité. Oui, NTN, c'est Non Territorial Network, donc c'est des réseaux non terrestres. D'où ce procédé que je vous ai expliqué entre.
Voilà.
Le satellite, la station sol et l'utilisateur final.
L'une des richesses de cette fameuse 5G dont on découvre souvent de nouvelles applications. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve dans moins d'une heure, dans 45 minutes exactement, pour débriefer l'actu tech de cette semaine. Il y a beaucoup de sujets, hein, restez avec nous. Et dans un instant, je reçois Stéphane Rougeot. Stéphane Rougeot, c'est directeur général adjoint de Deezer. Deezer qui vient d'annoncer un joli partenariat avec sans doute le numéro 1 de l'enceinte connectée. Il s'agit de Sonos. On va rentrer dans les détails et saluer aussi notre pépite française donc qui a conclu ce beau partenariat. Tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business en ce jeudi soir. Stéphane Rougeot est avec nous. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir François.
Vous êtes directeur général adjoint de Deezer, donc voilà, Deezer, notre pépite du streaming musical française, hein, qui, se bat contre des géants qu'on connaît, hein, Spotify, Apple Music, Amazon, j'en oublie sans doute. Quels sont les principaux?
Je veux pas.
Non, vous n'allez pas citer la concurrence. Mais bon, vous voyez de quoi je parle en fait. Et Deezer tient le cap et vient d'annoncer un partenariat très intéressant avec Sonos. Sonos, qui est un acteur majeur de l'enceinte connectée. Racontez-nous un petit peu quelle est la teneur de ce partenariat, Stéphane, avec Sonos.
Ouais, donc on a annoncé la semaine dernière ce partenariat avec Sonos. Donc on est très content. En fait, pour deux raisons. D'abord, c'est le signe de notre entrée sur le marché américain, On y était très très peu présent avec des abonnés en direct. Et là, on va y rentrer avec un partenaire qui est vraiment le modèle de développement de Deezer et une des spécificités du groupe.
Sonos est très puissant, je crois, en plus aux US.
À Sonos, c'est 40 millions de produits dans le monde.
Et oui.
C'est à peu près 14 millions de foyers avec des enceintes Sonos et avec un taux d'attache et une fidélité très élevée parce qu'en moyenne, un foyer a quasiment 3 enceintes Sonos. Donc une fois qu'ils commencent à acheter, en fait, ils en achètent beaucoup. Et ça, c'est important parce que Sonos évolue d'un fabricant et d'un fournisseur de hardware et d'enceintes audio de très bonne qualité et veut rajouter des dimensions de service. Ils ont d'ores et déjà un service de streaming qui s'appelle Sonos Radio.
Tout à fait, qui est gratuit.
Voilà, mais ils veulent le développer. Et c'est là où on a décidé de faire un partenariat ensemble. Nous, on souhaite se développer aux États-Unis. On souhaite le faire avec un partenaire parce que c'est notre modèle de croissance et notre spécificité, notre ADN Deezer. Et pour rentrer sur le plus grand marché du monde, bah, finalement, rentrer avec une des plus belles marques audio du monde comme Sonos et qui a un taux d'attache très important avec ses consommateurs, c'est une des plus belles opportunités.
Concrètement, ça veut dire que les radios Sonos vont être alimentées par le catalogue de Deezer ?
Oui, alors on va alimenter, ça va être plus que simplement le catalogue. En fait, toute la technologie derrière, ça va être fait et développé par Deezer.
En gros, excusez-moi, je vous coupe, mais je lance une Sonos Radio, d'accord ? Je lancerai finalement Deezer en streaming.
Ça sera la technologie
pour schématiser.
Deezer derrière. À partir du mois d'avril, ça va être Deezer qui va permettre justement...
Vous prenez la main sur cette partie-là.
Exactement. Et puis après, on a décidé, parce que c'est un accord de long terme, hein, c'est un accord qui est signé sur 5 ans. Et donc, on va faire évoluer et on va développer ces fonctionnalités de ce qu'on appelle Sonos Radio pour fournir un service de musique beaucoup plus développé que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si vous allez aujourd'hui sur Sonos Radio, c'est très bien. Mais ça n'a pas toutes les fonctionnalités d'un service de streaming comme Deezer. Et donc, on va innover ensemble pour... pouvoir offrir ça aux consommateurs et à ceux qui possèdent des enceintes Sonos.
Alors, cette nouvelle alliance fournira donc ses services à 16 pays, dont les États-Unis, vous le disiez, le Canada, le Royaume-Uni, la France, bien évidemment, et l'Allemagne. Rappelons que Deezer, c'est, bah, comme tous les autres à peu près, hein, des dizaines et des dizaines de millions de titres, 90 millions. L'idée aussi, c'est de pousser... Comment, en fait, la puissance de ce partenariat aussi, c'est de pouvoir être force de proposition pour éditorialiser ces radios, ou est-ce que Sonos vous dit, bah écoutez, bah voilà, moi j'aimerais bien une radio années 80 avec tel type d'artiste, etc. Ou alors vous, en fait, ils vous confient l'éditorial, en fait, la programmation, les playlists de ces radios.
Alors jusqu'à présent, Sonos éditorialise déjà son service Sonos Radio. Ils vont continuer à le faire. En revanche, ce service va potentiellement évoluer vers un service beaucoup plus complet, un service où les utilisateurs pourront eux-mêmes choisir comme ils le font sur un service de streaming comme Deezer ou éventuellement d'autres. Et donc c'est toute cette innovation qu'on va faire ensemble. Et on va rajouter également des couches éditoriales, mais c'est quelque chose que Sonos fait d'ores et déjà.
Est-ce que vous apparaissez en marque blanche dans ce service ou est-ce qu'on verra Sonos by Deezer ? Comment ça va se passer ?
Alors on n'a pas complètement défini encore tous les termes. On va s'appuyer sur la force de la marque Sonos, parce que c'est une des 20 marques les plus connues et les plus reconnues par les consommateurs au monde. Donc on a tout intérêt à s'appuyer dessus, surtout aux États-Unis, mais c'est vrai aussi dans les 16 pays de l'accord. Et en revanche, on va faire apparaître Deezer. Est-ce que ça sera Powered by Deezer ? Est-ce que ça sera by Deezer ? On va regarder tout ça, mais Deezer sera partie intégrante du service.
C'est rigolo parce que quand on voit le petit à petit le cheminement de Sonos, qui était au départ simplement un fournisseur de musique, on pluguait son Spotify, son Apple Music, son Deezer, hein, vous êtes là depuis le début, hein, sur Sonos, et puis il y a eu ces Sonos Radio. Là on voit que ce partenariat de médias Sonos en quelque sorte avec votre savoir-faire arrive encore plus fort. Est-ce que ça veut dire que petit à petit, à votre avis, avec Sonos, vous pourriez lancer une offre de musique finalement payante?
On va pas préjuger de ce que sera l'avenir, mais dans cet accord qu'on a ensemble sur les 5 prochaines années, on va innover et on va développer tout un tas de choses.
D'accord.
Et dans un seul but qui est au cœur de ce qu'est Sonos, c'est finalement l'expérience utilisateur. Leurs enceintes, nous on est allé plusieurs fois à Santa Barbara les voir, et finalement c'est des gens qui innovent dans la technologie et dans la technologie audio pour fournir la meilleure expérience possible. Alors évidemment ils se sont concentrés sur la qualité du son, sur la qualité de l'enceinte, sur son ergonomie, mais aujourd'hui ils se concentrent également sur finalement
le contenu,
ce qui sort de l'enceinte, c'est-à-dire le contenu, et c'est là où ils sont venus chercher quelqu'un comme Deezer, et c'est là où on a un partenariat qui fait du sens pour les deux maisons.
Ouais, mais c'est intéressant de voir que Sonos veut reprendre la main sur ce contenu et ne plus simplement céder tout ça aux acteurs qu'on connaît. Quel est le modèle économique de tout ça, Stéphane ? Ce sont des radios gratuites, finalement, qui seront financées par la publicité ?
Donc, il y a un service qui s'appelle Sonos Radio, qui est pour l'instant supporté par la publicité. Oui. Donc ça, on va l'opérer, on va le reprendre. Ils ont également un service qui s'appelle Sonos Radio HD, qui est un service de souscription. Donc là, ils ont des abonnés à ce service Sonos Radio HD. Donc là aussi, on s'abonne. Voilà. Et le but, c'est finalement de faire croître ces services. Alors nous, on va plutôt faire croître avec eux le service d'abonnement, parce que c'est ça notre modèle, plutôt que le modèle financé par la publicité. Et donc, dans les années à venir, ce qu'on cherche, c'est à développer la base utilisateurs de ce service pour les personnes qui auront du Sonos. Et donc, ça va nous apporter du business en plus aux États-Unis, des abonnés, évidemment du chiffre d'affaires. Et c'est ça ce qui soutient notre croissance et notre développement.
Ça veut dire que dans quelques années, Sonos pourrait racheter Deezer, par exemple ?
Alors ça, on n'a absolument pas évoqué ces sujets-là.
Je fais un peu de science-fiction. Dans l'actualité aussi du streaming, sujet qui est très intéressant, c'est TikTok, qui, évidemment, est au cœur de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi avec les employés de la Commission européenne qui vont être obligés de désinstaller l'application. Qui est d'ailleurs une application très très populaire. Hein. Tous les jeunes adultes aujourd'hui, les plus jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, utilisent TikTok. Et TikTok est aujourd'hui un vecteur musical impressionnant. Comment voyez-vous, vous, en tant que Deezer, TikTok ? Est-ce que c'est un allié qui vous fait de la promotion de la musique qu'après les utilisateurs vont écouter chez vous, ou est-ce que ça devient un concurrent, Stéphane Rougeot ?
Donc en anglais, on appelle ça un frenemies. Donc évidemment, ça nous permet à travers TikTok de faire passer tout un tas de marketing digital et puis d'acquérir des abonnés. Ça permet également de faire de la promotion d'artistes, même si c'est pas nos artistes, parce que c'est ceux des labels, ça fait la promotion de la musique. Après, évidemment, c'est du temps d'audience. C'est du temps d'attention de la part des consommateurs.
Et oui, tous les gens qui sont sur TikTok ne sont pas chez vous pendant ce temps-là aussi.
Non, je pense qu'il y en a beaucoup, mais ils sont également sur des plateformes concurrentes. Aujourd'hui, TikTok n'est pas encore vraiment rentré dans du streaming musical par abonnement. Bon, ils ont un modèle économique qui est totalement différent. Ils ont fait des tests dans un certain nombre de pays, notamment au Brésil. Peut-être qu'ils vont aller plus loin, mais ils sont sur des modèles qui sont différents. Est-ce que leur base d'abonnés, qui est évidemment extrêmement grande, va être prête à basculer sur du modèle d'abonnement payant mensuel de souscription ? Ça, on ne le sait pas encore, mais ça peut faire partie.
Oui, et là, ça deviendrait un concurrent redoutable.
Beaucoup plus direct.
On est d'accord. Encore une petite question sur TikTok. Est-ce que TikTok n'est pas en train de bouleverser la créativité des artistes ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des chansons qui sont spécifiquement créées pour TikTok, pour faire le buzz, pour générer des droits d'auteur qui vont durer quelques dizaines de secondes, voire deux minutes maxi. Est-ce que vous ressentez cette influence de la création diffusé sur TikTok, sur Deezer ?
Alors, on le ressent pas directement. Maintenant, on a tout un tas de playlists et notre partie éditoriale joue aussi là-dessus pour pouvoir mettre en avant du contenu qui a été créé et développé par des artistes sur TikTok et du contenu qui est très populaire sur TikTok. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire évoluer notre plateforme pour permettre la créativité des artistes et surtout le lien entre les artistes et les utilisateurs et les abonnés. Aujourd'hui, on est une plateforme qui, depuis une quinzaine d'années, comme toutes les plateformes de streaming par abonnement, donne accès à un catalogue avec un certain nombre de fonctionnalités, mais en gros, vous avez accédé à 90 millions de titres. Mmh. Derrière, vous avez des moteurs de recommandation pour que ça corresponde à vos goûts musicaux et ce que vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que finalement, cette plateforme, elle aille bien au-delà de ça et qu'elle permette de relier les artistes avec les fans et puis les fans entre eux et plein d'autres fonctionnalités qui sont pertinentes pour l'écosystème de la musique et pour les artistes, qui sont évidemment pertinentes pour les fans et puis qui nous permettent, nous, de générer du chiffre d'affaires supplémentaire.
Voilà, pour pouvoir échanger avec des fans, créer de l'interactivité,
échanger avec des fans, proposer des services de billetterie, oui, proposer du live streaming,
ce qu'on
a commencé à faire du e-commerce. Finalement, il n'y a pas de plateforme plus naturelle pour un artiste de musique pour se connecter avec ses fans que Deezer ou qu'une plateforme de streaming par rapport à d'autres types de plateformes beaucoup plus généralistes.
Ça devient un réseau social, finalement,
oui,
en quelque
oui.
sorte.
Un réseau social, et surtout un réseau social qui est directement lié aux artistes et à ce que les artistes veulent faire avec leur base de fans.
Juste encore un mot sur ce partenariat avec Sonos. Il rentrera en vigueur quand techniquement, avec mon enceinte Sonos, je pourrai écouter des radios by Deezer
Le 20 avril 2023, donc dans un peu moins de deux mois. L'ensemble des radios et puis du service de radio par abonnement de Sonos sera fourni par Deezer et puis ensuite on va développer tout ça.
Voilà, encore une fois, c'est un vrai joli coup, je trouve, hein, pour Deezer qui d'un coup va pouvoir étendre en fait son rayonnement hein, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, hein, puisque Sonos est une marque reconnue mondialement. Et à ce sujet, voilà, Sonos annonce de nouvelles enceintes, hein, de nouveaux modèles qui sont très intéressants et qui renouvellent un petit peu leur gamme, qui sont à la fois Wi-Fi mais aussi Bluetooth. C'est assez intéressant de suivre tout ça. Merci beaucoup, Stéphane Rougeot.
Merci François.
Vous êtes le directeur général adjoint de Deezer, donc, et ce partenariat donc conclu entre Sonos et Deezer. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans quelques instants avec eh bien quelques jours du Salon de l'agriculture. Eh bien, un sujet sur l'agriculture et la tech. Et notamment, on va découvrir ensemble la ferme digitale qui représente en fait les entreprises innovantes de l'agriculture avec des chiffres intéressants. Hein. 120 membres, 86 startups, plus d'un milliard d'euros levés par ces startups. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. On en parle avec son président qui sera avec nous, Jérôme Leroy. Vous restez avec nous. On revient juste après l'info éco de 20h30. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Serez-vous au Salon de l'agriculture? Eh bien, écoutez, j'en connais deux au moins sur ce plateau qui vont y être, et peut-être même tous les jours. Le Salon de l'agriculture, bien évidemment, qui est un rendez-vous que les Français adorent et qui, de plus en plus, se digitalise cette agriculture. Hein. Il y a de plus en plus de techno, et d'ailleurs, depuis pas mal d'années, on va en parler avec nos invités. Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co Julie David-Copin. Bonsoir, Julie.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice d'Ombrea. Vous êtes basée à Aix-en-Provence et voilà, vous mettez en place des panneaux intelligents pour ombrager les cultures. On va expliquer tout ça dans un instant. Et puis Jérôme Leroy est avec nous. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Président de Winat, mais aussi de la ferme digitale. Donc double casquette pour vous Jérôme ce soir, à la fois pour découvrir Winat qui est un peu votre bébé, qui est une société qui développe des solutions de météo connectées et d'agronomie pour l'agriculture. Et puis donc la ferme digitale, qui est un peu le, on va dire la petite French Tech de l'agriculture, hein, puisque vous regroupez énormément de start-up et d'entreprises liées justement à l'agriculture et à la technologie. 120 membres, 86 start-up, c'est ça ?
Exactement.
Alors présentez-nous cette ferme digitale. Jérôme.
Oui, alors l'association a été créée en 2016, donc on fête notre 7e anniversaire lors de ce salon de l'agriculture. On est 120 membres, 86 start-up. On travaille sur tous les domaines. On va retrouver des acteurs autour de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt. Et notre objectif, c'est de mettre en valeur toutes ces innovations pour une agriculture plus performante, plus durable, plus citoyenne, afin que ces innovations se diffusent auprès des agriculteurs en France, mais aussi dans le monde.
Et puis aussi donner un coup de boost à l'image hein, de ce secteur, qui est parfois un peu vieillot, un peu poussiéreux. Le fait de le digitaliser en quelque sorte, la transformation numérique en fait de l'agriculture, bah, c'est bon aussi pour la com. Il ne faut pas se voler la face, j'imagine.
Oui, oui, effectivement, les agriculteurs sont en pleine transformation. Il y a de plus en plus de fermes qui sont en train d'être reprises par des jeunes générations. Donc il faut que ce secteur soit aussi de plus en plus attractif. Et pour ces jeunes générations, il faut leur donner envie de devenir agriculteur. Pour ça, il faut qu'ils gagnent du temps, il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils respectent qu'ils aient des problématiques environnementales, qu'ils soient vraiment très impliqués.
Enlever aussi le maximum de pénibilité. Hein,
parce voilà, que vous l'avez dit,
la pénibilité. La tech permet de faciliter un petit peu ce métier qui parfois est très prenant et très dur.
Alors c'est un métier où on travaille historiquement parfois entre 60 et 80 heures par jour. Quand on se lève à 5h30 tous les matins.
Par jour, non, c'est compliqué.
Par semaine, 80 heures par semaine. Ça fait des heures de travail énormes, de se lever tous les matins très tôt. Un viticulteur va par exemple avoir des nuits entières pleines de stress à cause du gel.
Évidemment.
Donc tout l'objectif de ces innovations, de nos 80 membres, c'est d'aider ces agriculteurs à mieux faire leur métier, gagner du temps, être plus rentable, et aussi projeter cette agriculture dans les 30 prochaines années pour aider à la souveraineté alimentaire, à une alimentation de qualité. C'est tout ce qu'on défend avec nos membres et avec notre association.
La souveraineté alimentaire, c'est tout à fait vrai. 120 membres, donc, vous l'avez dit, 86 startups, plus d'un milliard d'euros levés par les startups du réseau. Chiffres cumulés depuis 2016, hein, ça fait quand même pas mal. En 2022, 211 millions et demi d'euros levés, et puis 25 millions levés par 6 des startups depuis le 1er janvier 2023. Donc voilà, il y a une accélération. Vous voyez qu'il y a une montée en puissance comme ça d'année en année ?
Il y a une montée en puissance qui est très très forte, notamment liée au contexte. Vous le savez, l'alimentation, le réchauffement climatique, le prix des matières premières.
Les tensions géopolitiques.
Des tensions géopolitiques qui mettent une pression très importante sur le milieu agricole et donc l'innovation, grâce notamment à des technologies d'intelligence artificielle qu'on va appeler plutôt la deep tech, donc des grandes masses de données qui vont être en capacité d'être traitées très très vite, et les biotech. Comment on fait avec des matières naturelles pour se défendre contre les maladies, améliorer la vie des sols pour éviter un sol de trop transpirer quand il fait très très chaud. Et ben tout ce mix de deep tech et de biotech fait que cette génération d'entreprises créées il y a 5 ans ou 6 ans sont maintenant en train de s'industrialiser et de s'internationaliser.
Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Cette ferme digitale sera donc au Salon d'agriculture. C'est quoi l'objectif d'être là-bas ?
En fait, déjà, notre 7e anniversaire, c'est là qu'on s'est créé, au Salon de l'Agriculture en 2016. On avait 100 mètres carrés. Aujourd'hui, à partir d'après-demain, on va avoir 800 mètres carrés, plus de 60 entreprises, 80 conférences pendant les 9 jours du Salon. Donc, notre objectif, c'est de montrer que l'agriculture est belle, que l'agriculture innove et que les talents français, qui soient ingénieurs, commerciaux ou développeurs, sont créatifs et veulent aider cette agriculture française à devenir encore plus performante et aussi à créer des emplois en France, rendre le secteur attractif et faire que l'agriculture française conserve sa place en Europe, conserve sa place dans le monde et que des emplois dans la technologie agricole soient issus d'entreprises françaises plutôt que nos fermes françaises et notre alimentation dépendent d'acteurs internationaux étrangers.
Voilà, ça représente en tout cas la ferme digitale, plus de 3000 salariés et près de 100 nouvelles offres sur votre site chaque mois. Donc on voit qu'évidemment, comme tous les métiers liés à la tech, vous êtes demandeurs en fait de talents. C'est intéressant parce que ce salon vous permet en fait aux agriculteurs de vous découvrir et peut-être d'adopter certaines solutions, peut-être celle d'Ombrea qu'on va évoquer dans un instant, mais aussi pour vous peut-être de rencontrer des talents qui pourraient arriver dans vos sociétés, et puis aussi pour le grand public de découvrir en fait toutes ces technologies. C'est très intéressant et vertueux. Un mot sur Winat, puisque vous avez cette double casquette ce soir dans Tech & Co. Jérôme, vous êtes à la fois le président de la ferme digitale mais aussi le président de Winat, qui, je le disais tout à l'heure, est une solution de météo connectée en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Alors, on a aujourd'hui 8 capteurs. On a 18 000 agriculteurs abonnés dans 6 pays en Europe. 12 000 capteurs déployés partout dans les sols en France, en Allemagne et en Espagne. Et qu'est-ce qu'on va proposer à l'agriculteur ? C'est une aide à la décision quotidienne grâce à une information qui va remonter toutes les 15 minutes sur son téléphone pour l'aider à prendre des bonnes décisions grâce à des données satellites, grâce à des données de capteurs dans le sol, et l'aider ainsi, du matin jusqu'au soir ou du semis jusqu'à la récolte, à mieux connaître ce qui se passe dans son sol, dans sa parcelle, au point GPS près, pour lui permettre...
En gros, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est d'arroser vraiment au moment, à l'instant T, quand il faut arroser, par exemple.
Exactement, vous le connaissez, 31 jours sans pluie depuis le début 2023.
On vit une période de sécheresse inédite.
25% de pluviométrie en moins l'année dernière. Et nos solutions, grâce à des capteurs dans le sol, vont permettre à l'agriculteur de connaître ce qui va se passer à 7 jours, à 3 jours ou à J+1, et lui permettre de mettre la bonne quantité d'eau au bon endroit, au bon moment, en fonction du besoin de sa culture, que ce soit de la pomme de terre, que ce soit du maïs ou du sorgho. La terre ne va pas avoir le même besoin, la plante ne va pas avoir le même besoin. Et notre objectif, c'est aider tous les agriculteurs européens, grâce à ces données croisées dans notre application, à pouvoir prendre la bonne décision tout au cours de l'alimentation de la plante en eau.
On peut faire économiser 20% d'eau grâce à ces capteurs, en fait, pour les agriculteurs ?
Oui, c'est tout ce qu'on constate aujourd'hui sur nos 18 000 clients, dont 40% minimum sont des utilisateurs d'eau pour faire grandir leurs plantes. Mmh. C'est 20% d'économie d'eau. C'est parfois 4 jours d'irrigation en moins en pleine saison. C'est également des litres, des millions de litres, des millions de mètres cubes d'eau économisée, et aussi des milliers d'heures de travail économisées, puisque l'arrosage d'une culture demande beaucoup de temps, demande beaucoup d'énergie, c'est aussi des gains énergétiques. Et donc, effectivement, d'avoir des capteurs dans son sol va permettre à l'agriculteur de connaître ce qu'il y a sous ses pieds, va anticiper le climat des 5 ou 6 prochains jours, et ainsi lui faire gagner du temps, des kilomètres, de l'eau. Et 20%, c'est vraiment ce qu'on constate depuis nos 8 ans d'expérience.
Techniquement, ces capteurs s'installent où ? Dans la terre ? Il en faut combien ?
Voilà, c'est assez simple. L'agriculteur reçoit un carton avec des capteurs, 5 ou 6 capteurs. Il va les implanter à 20 cm, à 30 cm de profondeur, à 60 cm de profondeur, en fonction des cultures qu'il a implantées.
C'est vous qui le faites, ça, ou c'est carrément plug and play ?
Complètement plug and play par l'agriculteur. Il reçoit son capteur, il implante c'est directement disponible sur son téléphone mobile. Et ensuite, jour par jour, il va pouvoir suivre quelle est l'humidité de son sol. Est-ce que mon sol s'assèche? Est-ce qu'au contraire, comme il a plu la veille, mon sol n'a plus besoin d'être arrosé? Et ainsi, tout au long de la culture, l'agriculteur va pouvoir piloter la quantité d'eau, les périodes d'apport en eau, et aussi ses déplacements, optimiser ses déplacements sur les parcelles. Par exemple, un agriculteur va en installer 5 ou 6, 2 dans une parcelle, 2 dans la parcelle à l'arrière de la ferme, 2 dans une parcelle qui est à 5 km. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir ensuite gérer, par exemple, avec ses salariés, qui vont, eux, intervenir au bon moment, au bon endroit, et pas forcément, du coup, arroser, quand c'est pas nécessaire, à 10 km.
Est-ce qu'on peut pas pousser l'automatisation jusqu'à ce que, en fait, l'arrosage se déclenche automatiquement, parce que Winat l'aura dit, en fait, à un système?
Alors, c'est déjà le cas. Il y a certains systèmes d'arrosage automatique. Mais nous, on a plutôt pris le pas chez Winat, que ce soit l'agriculteur qui soit décideur.
D'accord.
L'agriculteur choisit et ensuite, il va orienter et faire sa programmation du système d'irrigation pour pouvoir décider. Mais grâce à Winat, il va pouvoir réduire de 2 heures, par exemple, l'irrigation pendant une journée. Ou il va pouvoir arrêter pendant quelques jours, le temps que le sol s'assèche. Et ça va lui permettre d'économiser de l'eau, soit parce qu'il a une réserve d'eau. Et c'est ça qui va l'aider dans son quotidien, à avoir toujours la bonne information, peu importe où c'est dans sa ferme. Parfois, les agriculteurs ont des parcelles qui vont être très éloignées, à 5 km ou à 10 km, et ils n'ont pas le temps d'y aller en voiture. Et c'est ça qu'on va les aider à faire au quotidien, en connectant les parcelles françaises.
Et vous êtes basé à Nantes, hein, Jérôme. Winat, donc, fondé en 2014, belle réussite. Julie, c'est à vous. Julie Davé-Copin, donc, directrice générale et cofondatrice d'Ombrea. Expliquez-nous un petit peu quel est le concept d'Ombrea et ces panneaux intelligents que vous déployez.
Alors nous, le cœur du travail d'Ombrea, c'est de savoir pallier les aléas climatiques. En fait, vous avez cité justement ces panneaux que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Le principe de ces panneaux, c'est clairement de moduler l'ombrage, en fait, par jeu d'ouverture et de fermeture, par exemple. On va pouvoir moduler l'ombre au sol et ainsi apporter à la culture qui est en dessous tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. On va jouer sur la lumière, sur l'humidité, par exemple. Et nous, notre savoir-faire chez Ombrea, c'est de savoir à quel moment la plante a besoin de tel ou tel paramètres climatiques pour jouer sur ses rendements, pour jouer sur sa bonne santé et faire en sorte d'accompagner l'agriculteur dans ces changements immenses qu'on rencontre aujourd'hui. Jérôme en parlait tout à l'heure, vague de sécheresse en plein hiver qui va avoir des conséquences malheureusement très, très compliquées pour les agriculteurs. Et donc nous, voilà, Ombrea, notre travail, c'est vraiment de les accompagner et de gérer toute la notion de risque agroclimatique sur les parcelles.
C'est incroyable parce qu'en fait, ce sont des panneaux qui sont motorisés en quelque sorte et qui vont capter la lumière et en fait se moduler suivant en fait l'inclinaison de la lumière par rapport aux plantes, si j'ai bien compris.
C'est un peu plus simple que ça en fait finalement. C'est-à-dire que nous, le système mécanique que vous voyez là est le support technique de toute l'intelligence qu'on va placer derrière. En fait, on va pouvoir à distance. Donc nous, le cœur de notre travail, c'est de travailler sur toute la partie software du système. Donc on a des capteurs sur chaque parcelle qui vont nous envoyer des données météo classiques. On va mesurer la température, l'humidité, le niveau d'irrigation par exemple. Et à partir de ces données-là, on va les croiser avec notre savoir-faire qui va nous dire par exemple la salade à tel moment de l'année, elle a besoin de tel ou tel paramètre climatique pour grandir dans des bonnes conditions, pour avoir un bon rendement. Et à partir de là, on va croiser ces données et faire en sorte que le système s'active en fonction des besoins de la plante. Donc c'est vraiment un support. Et ce qui est intéressant, c'est que ce support va permettre aussi de financer le système dans la mesure où nous, on se positionne sur un tout nouveau segment de marché qui s'appelle l'agrivoltaïsme. Les panneaux qui sont au-dessus de ces cultures-là produisent aussi de l'énergie qui finance l'installation du système.
Vous êtes concurrent de Sonagri, alors finalement, non?
On n'a pas le même positionnement, ils sont dans l'agrivoltaïsme aussi. Et d'ailleurs,
parce que je les avais reçus il n'y a pas longtemps, et en fait, votre solution un peu fait penser un peu à ce qu'ils font. Alors eux, c'est plutôt les vergers, d'après ce que j'ai compris.
Alors, c'est pas une question. Le positionnement va être différent plutôt sur la façon d'approcher le marché. Sonagri va avoir une approche, on va dire, intégrative à la fois de l'énergie et du pilotage. Ils ont d'ailleurs une approche, comme nous, agro, autour de l'agro, et faire en sorte d'accompagner dans le développement des plantes. Nous, Ombrea, on a vraiment switché, d'ailleurs, on a pivoté depuis notre dernière levée de fonds. Il y a un an et demi, on a levé un peu plus de 10 millions d'euros autour du savoir-faire en matière de pilotage. C'est-à-dire que nous, on est des spécialistes de l'agroclimat et notre savoir-faire, c'est d'accompagner les énergéticiens dans de savoir justement de quel microclimat les plantes ont besoin dans tel ou tel cas de figure. Donc on est, on va dire, une vraie start-up tournée autour du soft et qui est là pour maîtriser tout le risque agroclimatique sur les parcelles.
Allez, on se rend compte de l'aspect vertueux de ce que vous faites, hein, parce que ça, vous récupérez de l'énergie, vous allez pouvoir optimiser la croissance des plantes. Combien, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, plus de 50 collaborateurs, 171 hectares de cultures protégées d'ici 2027, hein, c'est vos projections, chaque année. Vous en êtes où aujourd'hui? Il y a beaucoup de cultures qui profitent de votre technologie.
Oui, alors j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça veut dire aussi que c'est le reflet aussi d'une situation très compliquée chez les agriculteurs, oui, à laquelle on répond. Donc oui, nous on constate une vraie demande, hein, à chaque épisode climatique compliqué, on constate une augmentation des demandes. On va dire que plus de 70% de nos clients agriculteurs vont être plutôt sur les segments de l'arboriculture ou de la viticulture qui souffrent énormément justement de ces aléas climatiques. On va travailler beaucoup sur le maraîchage et sur l'horticulture aussi. Dans la moitié sud du pays, donc on a des installations dans le sud-ouest, dans le sud-est, mais aussi bientôt dans le nord de la France, parce que les régions du nord souffrent aussi malheureusement des épisodes de sécheresse.
Voilà, plus de 110 mégawatts d'énergie solaire en développement donc d'ici 2027.
Chaque année aussi.
Chaque année, et plus de 30 variétés de cultures étudiées. Et j'imagine que voilà, vous avez d'autres ambitions. Prochaine étape pour Ombrea? C'est encore une prochaine levée de fonds. Quel est votre pour cette année 2023?
Nous, c'est une très grosse accélération des recrutements. Aujourd'hui, on a une dizaine de postes ouverts. Donc, on recrute énormément des postes autour de la data, data analyse, développement. Donc, vraiment là-dessus, si certaines personnes vous regardent et ont envie d'aller déménager au soleil à Aix-en-Provence et de faire un job super sympa, actif auprès des agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique, c'est
ils
le
sont
gros
les
challenge
bienvenus
de l'année. Exactement.
Elles ou ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Beaucoup Julie.
Merci.
Julie David-Copin. Et vous serez donc au Salon de l'agriculture à partir de ce week-end. Et merci à Jérôme Leroy, président de Winat et de cette ferme digitale. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant. Et c'est Jean de Chambure qui me rejoint. On va évoquer l'habitat, la tech et l'écologie. Finalement, on reste un petit peu dans ce même domaine. A tout de suite.
Tech & Co. Décryptage.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business et Jean de Chambure est avec nous. Bonsoir Jean.
Bonsoir François.
Président de ce bureau des éveilleurs,
oui, hein,
cette agence qui conseille les entreprises sur divers sujets. Mmh. Et on va parler habitat, tech et écologie ce soir. Jean, dans ta série consacrée au climat tech, tu t'intéresses à l'effet potentiellement positif des technologies sur l'habitat, qu'il soit neuf ou rénové d'ailleurs. Mmh. Quelle est d'abord la situation et quels sont les grands enjeux du secteur que tu as observé dans ton enquête?
Alors écoute, déjà, le sujet de l'habitat, tu parlais à l'instant de l'agriculture.
C'est vrai.
C'est un sujet passionnant aussi pour les technologies vertes. Alors le sujet de l'habitat, c'est 25% en gros de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable. Il y a des ambitions très fortes qui ont été poussées par le gouvernement. En gros, d'ici 2030, il faut consommer deux fois moins d'énergie. Et en 2050, il faut arriver au fameux zéro carbone. On en est aujourd'hui, hélas, très loin. Quand tu discutes avec les professionnels du secteur, pour différentes raisons, depuis 20 ans, en gros, la productivité de ce secteur a baissé de 20%. Alors qu'on est quand même globalement dans une ère où tout progresse très fortement dans les services, avec le numérique, etc. Alors pourquoi ça
pourquoi oui, ça régresse?
Bon, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a une multiplicité de tâches, de matériaux, de process, qui fait que ça alourdit finalement le temps pour construire ces nouveaux bâtiments. Et ce temps, en fait, c'est aussi de l'énergie, fatalement. Et du coup, ça n'améliore pas du tout le bilan carbone de ces constructions. Alors, côté particulier, je voudrais qu'on me fasse un petit éclairage là-dessus, parce que c'est quand même très important. On le sait tous, on est tous...
C'est toi, moi, en fait, c'est tous ceux qui nous écoutent. Hein.
Exactement, c'est nous tous. Le ratio a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on était en consommation énergétique, en gros, à 80% sur du chauffage et à 20% sur, disons, tout le reste. Aujourd'hui, l'électricité occupe 50% de notre consommation. C'est énorme et ça va aller peut-être même jusqu'à 80% de notre consommation. Il y a bien sûr l'électroménager, mais il n'y a pas que ça. Et là, je parle hors chauffage. Hein. Donc là, je parle de tout ce qui touche l'informatique.
Oui.
Donc ça, c'est absolument considérable. Et l'audiovisuel. Donc c'est un chiffre très, très fort.
Alors, n'éteignez pas votre télé tout de suite.
Non. Prenez plutôt des écrans à cristaux liquides, les fameux LCD, plutôt que les écrans plasma.
Oui.
C'est parti des reclos.
Enfin, les plasmas, ça n'existe plus.
Non, ça n'existe plus, mais il y en a encore quelques-uns. C'est un peu comme les vieux bâtiments. Voilà. C'est comme les vieux bâtiments. Si nous, on est encore avec des vieux bâtiments.
C'est vrai.
Une grande partie de la France a des bâtiments qui sont avant 1975.
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, j'avais un écran plasma que j'ai changé depuis. Et c'était un vrai chauffage. C'est-à-dire que tu te rapprochais du truc, ça chauffait une maison incroyable, quoi.
Il faut reconnaître, on a aussi plus beaucoup, plus trop de postes fixes. Les ordinateurs, il y en a encore un petit peu, des ordinateurs familiaux. Et ça a quand même pas mal évolué. Et c'est évidemment les portables qui sont mieux venus. On a aussi moins d'halogènes et c'est plutôt les LED, etc. Donc, globalement, sur l'équipement de la maison, ça progresse, mais c'est pas suffisant.
Alors, justement, il faut qu'on ait des alternatives plus écologiques. Comment les industriels et les pros, justement, y font face, à ton avis ?
Alors, en dehors du choix des matériaux, en dehors de l'énergie de chauffage des bâtiments, en mettant par exemple des toits photovoltaïques qui existent de plus en plus, qui vont produire d'énergie, c'est positif.
Et d'ailleurs, on se dit qu'il y a encore une marge de progression phénoménale,
très importante,
sur l'installation de panneaux photovoltaïques.
Très importante. Ça passe par évidemment beaucoup de réglementations, des accords de syndic, des accords de
à différents alléger niveaux. Peut-être les procédures aussi, parce que parfois c'est d'une complexité.
C'est ça. Il y a aussi toute cette dimension de simplification. Alors l'une des grandes tendances qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la fabrication, la construction hors site. C'est-à-dire, on fait un peu comme des Lego.
Ah oui.
On va tout construire en dehors de l'endroit où va avoir lieu le bâtiment, et après on assemble tout ça et on le met sur place.
Oui, c'est une maison.
C'est une maison, voilà.
Une maison. Playmobil, quoi.
Voilà, puzzle. Alors c'est intéressant parce que du coup il y a des flash codes, il peut y avoir un peu comme des Lego, on va retrouver certaines parties du bâtiment qu'on pourrait démonter éventuellement et remonter ailleurs. Il y a des entreprises qui sont très, très intéressantes sur ce domaine-là, qui ont beaucoup avancé. Alors en fait, le pionnier du hors-site, avant même les fameux logiciels de 3D, de modélisation des données en 3D, qu'on voit par exemple chez Dassault Systèmes, qui marche extrêmement bien. Il y a une entreprise qui s'appelle GA Smart Building a une filiale qui est spécialisée dans la construction hors-site. Alors c'est aujourd'hui, le hors-site pour nous c'est encore assez nouveau en France, mais par exemple si tu prends le Royaume-Uni, on parle de 30%. T'as 30% des bâtiments actuels qui sont construits hors-site. Alors ça c'est très bien, on appelle ça le BIM dans le langage des constructeurs. Donc le BIM, c'est tout simplement le Building Information Modeling, la modélisation. C'est très bien pour le neuf, mais il n'y a pas que le neuf.
Eh oui, parce que tout ça, tout ce que tu en racontes est évidemment passionnant, mais ça coûte beaucoup d'argent. Quelle serait la solution pour tous ceux qui ne veulent pas aussi gréver leur budget ?
Voilà. Alors, autre solution, alors je reprends une autre image, on parlait des Lego, mais nous pourrions parler là maintenant des pulls. Des pulls que l'on va mettre sur les façades des immeubles. Il y a une démarche qui s'appelle Energy Sprong, qui est vraiment une démarche qui a commencé en Californie, mais qui est aussi aujourd'hui commencé également en Europe à partir des Pays-Bas, qu'on voit un peu partout, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et progressivement en France. Donc en fait, l'idée est très simple. On fait là aussi une construction hors-site, mais c'est plutôt du design hors-site. Et on va coller, si tu veux, sur la façade. C'est très impressionnant à voir, hein, ça concerne beaucoup de logements sociaux, ça concerne des cantines. Donc là, si tu veux, on adresse vraiment la masse un peu des bâtiments à renouveler. Alors ce ne sera pas sur les façades historiques haussmanniennes qu'on connaît dans les centres-villes, mais
oui, parce que évidemment ça casse toute on va dire la beauté de ces bâtiments, non ?
Ça peut ou pas ? Ça peut ou pas ? Alors c'est la première réaction, mais il faut regarder vraiment les vidéos, on se rend compte que ça peut être plutôt élégant. Là, c'est un gros avantage et que ça coûte beaucoup moins cher pour les particuliers.
Certes.
On perd pas de mètres carrés et puis ça fait le chaud et le froid. C'est-à-dire que non seulement ça te protège, alors ça fait à la fois pull et ventilation, de cette manière, ça te protège d'un excès de chaleur comme d'un excès de froid. Et du coup, évidemment, ta consommation énergétique se retrouve bien, bien améliorée. Energy Sprong, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à suivre. Je rappelle juste un chiffre là-dessus. On est en gros à 400 000 logements neufs construits chaque année en France, hein, donc c'est quand même important. Mais notre patrimoine, c'est 37 millions de logements. Ouais. Donc en 2050, le moment où on atteindra théoriquement la neutralité carbone,
ouais, en tout cas, c'est l'objectif.
Très majoritairement avec des logements existants.
Oui.
Et du coup, cette démarche Énergiesprong, on l'a bien compris, va être importante pour certains types de
bâtiments. Le pansement, en quelque sorte.
Pansement, et ça aura, si ça se développe, un vrai effet sur cet objectif-là.
Passionnant, hein, ce sujet, ouais. Bien sûr, qui nous concerne tous.
Et l'énergie, c'est peut-être une des dernières industries qui va aussi beaucoup se transformer grâce, notamment, au digital. Pas ouais. que, mais avec le digital. Et là, du coup, le digital et la transition écologique se réconcilient et vont ensemble. C'est ça qui est très intéressant à observer.
Mais la première chose à identifier, c'est la rénovation énergétique. Hein. La plupart des maisons sont des passoires thermiques et il suffit simplement, parfois, de changer, d'abord, de changer l'isolation des fenêtres.
L'isolation des fenêtres.
Tout simplement, qui va empêcher la chaleur de sortir. Et vous allez faire, rien qu'avec ça, déjà 10 à 20% d'économie d'énergie, simplement, parce que vous allez mieux isoler votre maison et que la chaleur, en fait, ne va pas se dissiper comme ça en sortant des fenêtres, quoi.
Quand on peut le faire.
Ouais. Quand on peut le faire, bien sûr. Il y a pas mal d'aides, hein, d'ailleurs, sur ce sujet.
Oui, absolument.
C'est intéressant quand même de jeter un œil sur tous ces sites de l'ADEME, etc., qui peuvent vous informer. Merci Jean.
Merci à vous. Merci à toi.
Tu restes avec nous.
Avec plaisir.
Bientôt 21h, on va attaquer le débrief de l'ActuTech et je sais que c'est un moment que tu apprécies. Donc tu es le bienvenu, tu restes là. Salim Assad, Ben Marel et Frédéric Simotel me rejoignent. On va commenter l'ActuTech de ce jeudi soir, en ce 23 février, dans un instant, sur BFM Business dans Tech & Co. Voilà, on va revenir sur toute l'actualité, la révolution de ChatGPT, mais aussi, évidemment, ces craintes autour de TikTok, hein, qui est vraiment là, c'est l'œil du cyclone, quoi. Tout le monde regarde TikTok et notamment la Commission européenne. On en parlera entre autres tout à l'heure. Vous restez avec nous. Merci d'être là. C'est Tech & Co sur BFM Business.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Et bien voilà, 21h02, on attaque notre deuxième heure en ce jeudi soir et c'est le débrief de l'ActuTech avec ce soir Salim Assad qui est là. Salut Salim.
Bonsoir François.
Associé chez Newfound. Nous avons aussi Jean de Chambu. Rebonsoir mon cher Jean.
Bonsoir François.
Président du Bureau des Éveilleurs. Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Et le retour de Ben Marel qui nous avait bien manqué depuis tous ces mois. Il est de retour dans Tech & Co et dans le débrief. Salut Ben.
Salut, merci de m'avoir à nouveau.
Président et cofondateur de Briga, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas changé, non. Bon, ça n'a pas vocation à changer, en tout cas pas tout de suite. Non.
Tout va bien. En tout cas, on est ravis de te retrouver pour commenter l'actualité tech. Et avant d'attaquer un gros morceau sur l'IA et ChatGPT, j'aimerais qu'on évoque avec Jean de Chambu, ici présent, la présence, justement la semaine dernière, d'une des personnes les plus puissantes au monde, c'était Jeff Bezos, qui était à Paris. D'ailleurs, l'une de nos collaboratrices, et pour ne pas la nommer Léa, qui produit cette émission, l'a croisé dans un restaurant et je lui dis, mais c'est pas possible, c'est pas Jeff Bezos, tu l'as peut-être confondu, etc. C'était peut-être, je sais pas, John McEnroe ou quelqu'un d'autre. Non, c'était vraiment bien Jeff Bezos. Il y avait une raison à ça, c'est que Jeff Bezos a été décoré par Emmanuel Macron, un peu en catimini. C'était le 16 février dernier, il a reçu la récompense ultime, un chevalier de la Légion d'honneur, Jean.
Oui. Et ça fait beaucoup de bruit, en fait, cette semaine, en tout cas une partie de la classe politique, disons principalement la gauche, hein, c'est plutôt offusqué du fait que Emmanuel Macron remettait. Bon, ça, on peut tout à fait les comprendre, ils sont dans leur ligne idéologique, on va pas forcément commenter sur ça. Enfin, je veux dire, on peut les comprendre dans leur schéma de pensée, qui n'est pas forcément celui que je partage, mais on peut comprendre.
Oui, parce que c'est récompensé l'ultra-capitalisme, etc., etc., quand on est de gauche.
Ce qui est, je trouve intéressant, au-delà de ça, bon, parce que c'est la politique, mais au-delà de ça, c'est qu'il n'est pas fait avec beaucoup de... c'est quand même pas n'importe qui, Jeff Bezos. On est en train de parler d'un des grands patrons des top 4, top 5 des boîtes dans le monde.
Oui, quand même.
Pourquoi l'avoir fait soit on décore, et à ce moment-là, on dit vraiment qu'on décore, soit on décore pas. Mais cette espèce d'entre-deux, je le comprends pas très bien, surtout si on est Startup Nation, surtout s'il y a un écosystème autour de ça. Donc, ça dénote un petit peu, est-ce qu'il y a derrière... une décoration, c'est toujours gratuit, hein, et ça flatte, et ça peut permettre, pourquoi pas. Parce qu'il y a habilement quelque chose de politique derrière, en disant, bah voilà, cher Jeff Bezos, vous vous rappelez des taxes GAFAM, vous avez optimisé quand même un certain nombre d'années vos résultats, mais peut-être que là, maintenant, vraiment, s'il vous plaît, vous faites bien les choses dans l'ordre, vous nous aidez à ce que les autres GAFA vous suivent, et merci d'ailleurs, vous avez des emplois créés en France aussi, ce qui est aussi également une réalité. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Mon regret, personnellement, quand on sait aussi l'attachement qu'on a à la French Tech, à toutes ces innovations, etc., qu'on pousse quand même régulièrement, c'est que tout ça n'a pas été un petit peu plus associé, un peu plus visible. Voilà, c'est mon
commentaire. Voilà.
Bah c'est vrai que surtout que lundi soir, quand on y pense, lundi soir était la présentation d'une X40 et d'une French Tech 120, donc il y avait tout le gratin. Il n'y a même pas fait référence en disant, il aurait même pu dire, tiens, j'étais à Jeff Bezos, ou Jeff Bezos a un mot pour vous. Tu vois,
alors visiblement, voilà. C'était jeudi, c'était le 16. Hein. C'était la semaine dernière, il y a une semaine.
Il aurait pu avoir quelques mots, mais effectivement, la seule chose qu'on peut...
Alors après, on peut comprendre Emmanuel Macron, hein, qui récompense Jeff Bezos, c'est tout à fait légitime. Ouais. Alors, bon, déjà, personnalité qui a réussi.
Bien sûr.
Jeff Bezos, c'est aussi apporteur d'énormément d'emplois en France, hein, c'est des milliers, hein, avec Amazon, les entrepôts qui ouvrent, etc.
Oui, mais je pense que sa crainte, j'imagine, c'était de se prendre le revers de « oui, mais c'est des emplois
manutentionnaires ». En ces périodes où on renégocie les retraites, c'était peut-être pas forcément le bon message d'avoir un ultra...
Alors, du coup, je rejoins le point du pourquoi maintenant. Alors, du coup, tu vois, il aurait pu décaler. Soit t'en fais effectivement un vrai événement. Voilà. Tu profites du Next 40, French Tech 120. Tu fais tout le monde au même moment.
Ouais, c'est vrai.
Décor sur scène. Et là,
c'est intéressant,
la fête,
quand même.
De la tech et de la réussite entrepreneuriale. Soit tu déportes et tu dis, bon, attends, laisse-moi finir mon dossier un peu houleux, là, des retraites. Et puis, Jeff, je te décore en septembre.
Et on fera ça avec l'orchestre, les trompettes, etc.
Et en même temps. Donc, c'est toujours le et en même temps.
Qu'est-ce que tu en penses, Salim, toi ?
Non, moi je pense que c'est Jeff Bezos, c'est quasiment un chef. Il est plus puissant que la majorité des chefs d'État. Donc évidemment, c'est quelqu'un qu'il faut.
Et je pense que pour Emmanuel Macron, c'était intéressant de le rencontrer.
Il y a un million de personnes. Voilà.
Je pense qu'en France, on n'a pas. Voilà, c'est pas un pays où on encense les grandes réussites professionnelles et les grands patrons. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Voilà, Bernard Arnault, on voit tous les jours comment il se fait lyncher sur la place publique. Je trouve ça très dommage. Et voilà, je pense que.
Et c'est un peu honoré 18 000 emplois, hein, Amazon en France. Je regardais ces chiffres-là, 18 500. Donc c'est pas neutre.
Après, les railleurs vont te dire combien ça détruit d'emplois dans le commerce traditionnel.
Non, et puis les railleurs disent qu'Amazon ne paie pas assez d'impôts en France aussi. Ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'ils ont un
des affaires.
Peut-être que quand il lui a épinglé sa petite médaille, il lui a parlé justement du fisc.
Mais je rebondis sur ce qu'en fait, je vais répéter jusqu'à Dijon, mais pourquoi le faire alors ?
Oui,
c'est ça. Soit on le montre et puis on est fier, on montre tout ça.
Oui, c'est vrai.
Voilà, il y a la... surtout lui, quoi. Enfin voilà, il y a des patrons de PME qui sont décorés régulièrement. Bon, on en parle au niveau local. Le patron fait sa pub. Là, quand même,
étonnant.
Ouais, c'est étonnant. On comprend là dans le contexte actuel, mais du coup, sans dire ne pas le faire, ou alors oser.
De toute façon, sur ce sujet, hein, mais qui est très propre à notre écosystème tech, la com du gouvernement était quand même un peu hasardeuse, parce que je rappelle quand même que la liste des French Tech 120 et Next 40 est sortie avant la fameuse déclaration d'Emmanuel Macron. Donc l'événement avait lieu le lundi soir et le lundi matin déjà dans la presse il y avait la liste. Ça fait en une semaine, ça fait quelques petits ratés.
Et puis on pourrait revenir sur les critères de choix.
Sans parler des critères de choix.
Là aussi, on a déjà parlé un soir en débrief, mais juste sur la partie levée de fonds, on voit des gens qui sont Next 40 qui licencient, on voit des petites boîtes. Enfin, juste sur la levée de fonds, ça.
C'est peut-être une photographie. Enfin, moi, je trouve que c'est un gros coup de com. Qui fait que pendant une année, il y a 160 boîtes qui sont mises en avant. Hein, 120,
comme c'est un gros coup de com', ça veut dire que pour les entreprises, pour les startups, c'est un gros coup de com'.
Il faut comprendre.
Qu'elles sont prêtes à renseigner un truc de dire nous, on est passé de temps à temps en termes d'employés, de temps à temps. Alors, elles ne veulent peut-être pas dévoiler leur chiffre d'affaires, mais notre croissance, elle est à peu près de ça. Enfin, donner davantage d'infos que de dire tiens, lui, là, parce qu'évidemment, on le disait l'autre jour, Miro a disparu du Next 40, pourquoi ils ont levé 200 millions ils ne vont pas lever 200 millions comme ça tous les ans. Donc, c'est un peu. Il y a peut-être d'autres façons de.
Tu trouves que c'est injuste comme méthode.
Non, alors, je ne critique pas le truc, parce que, évidemment, ça met en avant
de
ça. Et puis,
on a bien compris. Tu ne remets pas en cause ce classement. C'est la manière, en fait, dont sont sélectionnées les sociétés.
C'est mis en avant quand on dit on a un objectif de tant de boîtes qui vont faire une IPO, qui vont devenir cotées. Effectivement, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Ouais. Est-ce que c'est vraiment de valoriser, d'avoir des boîtes qui sont valorisées à plus de 10 milliards d'euros? Est-ce que c'est ça qui est vraiment important? Versus la création d'emplois, le chiffre d'affaires. Enfin, le but, c'est quand même de créer des champions d'avoir des...
Tu vois, je serais curieux de voir, on a eu en matinale l'autre jour le nouveau patron de Klaxoon qui vient de chez Carrefour. Ils viennent de lever 15 millions d'euros. Bon, ils comptaient lever 100 millions, mais dans le climat
dans
actuel,
le
15
actuel,
millions, c'est déjà bien. Mais hop, et l'ancien cofondateur, alors lui, il est parti aux États-Unis, États-Unis. Il y a aussi, moi j'aimerais bien qu'on décrypte parfois un peu plus les levées de fonds. Qui sont, est-ce que c'est des vraies levées de fonds? Est-ce que c'est des emprunts? Qui prend la main aussi dans la boîte? Enfin, toi, tu connais très bien ça. On voit du coup, le cofondateur, il est mis un peu mis en retrait. Voilà. Et dans ce Next 40, il y a des choses à dire sur certaines sociétés quand même. Hein.
Il y a des notes déductibles, des choses comme ça. Ouais.
Après, la volonté de mettre en avant des nouveaux champions pour renouveler un peu le CAC. Hein, oui. Le CAC 40, c'est quand même un indice qui est composé de boîtes dont la plupart sont nées avant les années 70. Oui. Donc, c'est vrai que de se dire que par rapport aux États-Unis ou à la Chine, on arrive à apporter sur la place des nouveaux champions.
Une fraîcheur.
Je pense que ça c'est effectivement très sain. Là où je te rejoins, mais ça, tout le monde en parle aujourd'hui. C'est vrai que ce label de licorne, il avait certain sens à un moment donné. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être passer à un peu autre chose. C'est pas une fin en soi d'être valorisé plusieurs milliards. D'autant que si c'est plusieurs milliards dans un marché privé avec des preferred, enfin, on sait tous que ça veut pas dire grand chose. Donc, in fine, il vaut mieux effectivement pouvoir se dire voilà, c'est une boîte qui crée des emplois, combien elle en crée, combien elle crée de chiffre d'affaires, combien elle fait vivre de sous-traitants et donc l'impact un peu indirect dans le tissu économique. Ça, effectivement, c'est intéressant.
Ou même qui a changé maintenant. Ledger qui s'installe en province, quoi, qui relance une zone industrielle locale.
Complètement.
Tu as comment il s'appelle, Carros aussi. Enfin, je crois des véhicules électriques. Pareil, ils se sont installés en province. Ils ont en région. Ils ont relancé un peu le tissu local. Et puis ils ont une visée mondiale. Hein, donc.
C'est ce que tu décris et tout à fait dans l'époque et dans le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que pour la grande majorité des gens, il y avait cette fascination sur les levées de fonds, elle existe toujours un peu, mais dans un micro-milieu, je pense. Et aujourd'hui, la grande majorité n'a peut-être moins d'adulation pour ça, et plutôt pour la réussite avec des critères RSE très forts. On le voit chez tous les jeunes diplômés, on le voit,
c'est
une vraie tendance de société, et les jeunes diplômés talentueux veulent plutôt des boîtes où on assume pleinement ce rôle entrepreneurial, mais avec un objectif sur l'environnement.
Oui, où il y a une vision commune, en fait, entre le salarié et l'entreprise.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est limite un peu démodé que de ne focaliser que sur ça. Au-delà de la mode, c'est des convictions, bien sûr, mais on voit qu'il y a un petit décalage. Ça correspondait peut-être à l'époque de 2007, à la première élection d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas.
2007, Macron, la première fois, non?
2018, excuse-moi.
Ah, pardon, parce que je me suis dit, c'est vieux que ça, attention. Le pauvre.
Attention.
Pardon, 2017, 2017. 2017.
Non, mais j'avais compris 2007.
C'est pas... Ah non, 2017.
T'as dit 2017, pardon.
Oui, 2017.
J'ai parlé 2007. On a terminé sur le Next 40, FT 120, plus rien à dire là-dessus. On enchaîne sur ChatGPT. Moi, c'est comme vous voulez, hein, les amis. Franchement, j'ai pas envie de vous brider, de lâchez-vous, tels des chevaux fous. Attention. Non, là, on va parler de ChatGPT et de la note salée, parce que ça va coûter cher toute cette histoire-là. C'est une autre conséquence de cette révolution de ChatGPT. C'est parce que utiliser un moteur de recherche en ligne va coûter de plus en plus cher. Vous le savez, hein, Microsoft et Bing maintenant s'y mettent. Et l'arrivée de ces IA conversationnelles chez ces géants va en effet faire exploser le besoin en puissance informatique. On commence d'ailleurs à faire tourner les calculettes et on parle de surcoûts de plusieurs milliards de dollars. On regarde le reportage de Simon Tenenbaum et on revient juste après.
Avec l'intelligence artificielle, le coût de chaque recherche en ligne est multiplié par 10, selon le président de Google. Les recherches conversationnelles nécessitent en effet des puces plus puissantes et une consommation d'énergie supplémentaire. On passerait de 0,2 centimes à plusieurs centimes par recherche, calcule Morgan Stanley. Si la moitié des recherches Google sont réalisées l'an prochain avec son IA, cela représente 6 milliards de dollars de surcoût, selon la banque américaine. De quoi expliquer, malgré l'excitation ambiante, le déploiement progressif de ces nouveaux outils de recherche avec des versions bridées des IA moins gourmandes en puissance de calcul. Déjà fragilisé en bourse par l'irruption de ChatGPT et son arrivée chez Microsoft, Google espère faire baisser rapidement ses surcoûts grâce à des améliorations techniques. Pour Microsoft, le challenger, le calcul est à ce stade différent. Le groupe table sur l'IA pour enfin gagner des parts de marché dans la recherche en ligne et ça l'emporte sur le coût de fonctionnement de ChatGPT.
Et voilà, parce que tout le monde évoque ce sujet-là, mais la note va être salée, Fred, quand même. Hein. Plusieurs milliards de dollars simplement en implémentant cette technologie, parce que c'est beaucoup plus de puissance de calcul.
C'est la du stockage, c'est la puissance de calcul.
Mais d'ailleurs, c'est l'électricité.
Celui qui a un peu lancé, qui a allumé un peu la mèche, c'est le patron de Nvidia, hein, qui présentait les résultats, et qui a dit, ah, mais nous, on voit un avenir radieux.
Hein, radieux, ça va être génial.
Nos puces graphiques et tout ça, on va utiliser de plus en plus nos puces, ouais. Alors, à la fois dans des véhicules, puisqu'on l'a vu quand on était au CES, Nvidia est partenaire de constructeurs automobiles, et puis alors avec l'IA là où tout le monde est en train de se déchaîner, c'est le cœur, c'est quand même des processeurs quoi, enfin on fait tourner du logiciel, du code dessus, mais c'est des processeurs, et là le boulevard qu'on a devant nous, et puis derrière sur le tout ce qui va derrière, le stockage, ouais.
C'est intéressant parce que le patron de Nvidia dit ChatGPT c'est l'iPhone de l'IA, ouais. C'est surtout la caisse jackpot quand même, hein. Ouais. Non, c'est intéressant. Jean.
Ça leur coûte, je crois, ChatGPT, j'avais vu passer ce chiffre, 100 000, ça a dû monter d'ailleurs, je crois que c'est 100 000 dollars par jour.
Oh, je pense que c'est plus que ça. Je crois que c'est plusieurs millions aujourd'hui.
Je crois que si.
Par jour, hein.
Par jour.
Mais c'est énorme.
C'est énorme.
Enfin, ils n'ont pas encore de. Enfin, il va y avoir des abonnements, etc.
Non, mais c'est dingue parce que dans ce discours ambiant où il faut faire attention, où on parle de frugalité énergétique, etc., ouais. On sort une nouvelle technologie qui dépense énormément d'énergie, ouais. Plus que de raison. Pour en plus dire des bêtises, hein.
Oui, mais on
a tapé notre nom à Fred. On a tapé notre nom dans ChatGPT cet après-midi parce qu'on on rigole un peu quand même au bureau de temps en temps, donc on fait des
avançantes. Avançantes au stade brestois.
Ouais. Non, mais je crois qu'il y a, ouais, il y a une étude de Morgan Stanley qui est sortie. Je crois que c'est celle qui a été relayée pas mal aujourd'hui. Ouais. Et si Google faisait 100% de ses requêtes sur ChatGPT, ça leur coûterait 100 milliards. Je crois que 100 milliards de dollars par an. Sachant que leur chiffre d'affaires, c'est 280 ou 300 milliards. Ouais. C'est quasiment un tiers de leur chiffre d'affaires.
Ouais,
c'est
complètement délirant. De recherche qui sont...
Mais on comprend. Maintenant, l'arbitrage, ça va être de dire voilà, quel pourcentage on met sur les requests. Évidemment, si vous cherchez la date de naissance de Louis XIV, pas besoin de demander à ChatGPT. On cherche l'indexation classique. Donc, est-ce qu'ils vont mettre 5, 10, 15, 20, 30%? Et évidemment, le grand gagnant, c'est Nvidia qui va s'en mettre les poches pleines. Mais moi, quand je pense à ça, je me dis derrière, il y a ChatGPT 4 qui est annoncé.
Encore plus puissant.
GPT 3 aujourd'hui, c'est 170 milliards de paramètres pour faire tourner le modèle. GPT 4, c'est 100 000 milliards de paramètres.
Wow. Et connecté à Internet.
Donc, on n'est pas connecté. Alors, évidemment que les algorithmes vont devenir de plus en plus efficients, etc., vont consommer de moins en moins vont être de plus en plus économes, mais. Voilà, jusqu'où est-ce que.
Non, mais d'un côté, on nous dit de débrancher sa box la nuit, ça. Enfin des trucs comme ça. Et puis d'autre côté, vous avez.
C'est aussi. Alors, je ne sais pas si c'est l'iPhone de l'IA, mais c'est. Il y a d'ailleurs Gaspard Koenig qui en a fait un papier intéressant. Il dit c'est l'anti-Wikipédia. C'est assez vrai. C'est-à-dire qu'au fond, Wikipédia, ce sujet collaboratif, est plutôt sobre, parce que finalement, c'est des pages web, assez bien informées, vérifiées, etc. Sur vous sans doute messieurs sur Wikipédia finalement il va falloir vraiment qu'ils arrivent à prouver qu'il y a une valeur ajoutée intellectuelle par la synthèse qui aille au-delà de la fameuse fiche Wikipédia.
Mais je pense que c'est pour moi. Pour moi, il y a deux trois utilisations qui peuvent être. Ben, tu parles de synthèse. Je pense que là, beaucoup le disent. Hein, ouais. Voilà, on a un document de 20-40 pages en PDF. Il nous fait le résumé. Ça c'est impeccable. Assister des téléopérateurs dans des. J'ai discuté avec un assureur tout à l'heure qui me disait, nous c'est super. Hein, on leur met ça. Ils ont. Mais par contre, c'est un côté fermé hein, parce qu'il faut définir qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on lui fait ingurgiter comme data, à qui appartiennent les data. Bon, ça c'est tout un ensemble. De choses aussi, mais il dit pour un téléopérateur, vous imaginez quand quelqu'un appelle, il va lancer ça en langage naturel, il a sa réponse, il est beaucoup moins stressé, surtout que la personne derrière elle a eu 4 fois le serveur vocal. Enfin, il y a quelques applications. D'ailleurs, Coca-Cola vient de signer, enfin Bain Capital vient d'entraîner Coca-Cola sur OpenAI. Voilà, moi j'y crois dans un environnement fermé, dans un environnement largement ouvert, ça me semble.
Puis ça réduit un peu la richesse de l'information. Je rejoins un peu le parallèle sur Wikipédia. Ce qui est passionnant sur Wikipédia, c'est de se balader d'un article à l'autre, c'est de lire un premier, puis de cliquer sur un deuxième, de faire du ping-pong, d'aller vérifier. Là, c'est vrai que ça centralise un peu l'information à un endroit. On avait déjà un peu le problème de la concentration de l'information sur les plateformes des réseaux sociaux dont on pourra débattre, notamment leur impact sur la jeunesse. Mais là, c'est encore pire. Donc, on est en train de, dans certains cas d'usage en tout cas, de tirer un peu encore plus loin le fil de la flemme ambiante. Et donc, on met les gens dans une espèce de cocon qui finalement est presque dangereux. dangereux parce qu'on arrive à limiter l'information. Et ça, je trouve que pour la démocratie, pour nous tous, pour la société, c'est quand même pas idéal. Parce que le réflexe naturel, oui, maintenant, ça va être de dire oh, bon, j'ai un peu la flemme, je vais voir ce que me dit ChatGPT. Bon, bah, c'est une source. C'est quand même pas mal de temps en temps d'en avoir d'autres. Et donc, soit on se dit, et je le suppose, hein, qu'avec l'utilisation, les coûts vont décroître et que peut-être alors du coup on aura d'autres concurrents, même si la marche est haute, et donc ils seront probablement américains et ou chinois. Et donc c'est vrai que là aussi on va être, nous Européens, encore une fois pris entre deux feux, ce qui n'est pas très agréable d'un point de vue indépendance. Et de l'autre, c'est quand même un sujet où si on ne réagit pas, les trains vont passer et l'Europe va se retrouver un peu tout seul.
Mais si on revient dans un instant, petite pause, et on va poursuivre sur ChatGPT, parce que vous savez peut-être que sur Amazon, on peut acheter des romans qui ont été créés par ChatGPT. Voilà. On en parle dans un instant avec l'analyse très intéressante d'Anthony Morel. Et je viens de taper François Sorel sur ChatGPT, Frédéric. Je vous lis la réponse après la pause, hein ? Allez, vous restez avec moi tout de suite. Vous allez voir, c'est pas triste.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Voilà, le retour de Tech & Co sur BFM Business avec ce soir Salim Assad, Ben Marel, Jean de Chambure, Frédéric Simotel et ChatGPT qui est au cœur de nos discussions. Et on vient de demander à ChatGPT qui est François Sorel. Alors, il nous raconte des trucs intéressants au début. Je suis un journaliste présentateur, spécialisé dans la tech. Et puis, c'est le deuxième paragraphe qui est assez amusant où il nous dit il a ensuite rejoint la chaîne de télévision française M6 où il a présenté l'émission Turbo. Alors, pourquoi j'y comprends rien en automobile. Enfin, j'ai fait pas mal d'émissions auto avec mon camarade Jean-Luc Moreau sur RMC, mais j'ai jamais travaillé sur M6 et j'ai jamais animé Turbo, mais aussi Zone Interdite. Comme quoi, c'est bizarre comme d'un coup. Et puis en plus, il le dit avec un certain aplomb à la Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est presque encyclopédique. Donc s'il vous plaît, si vous voulez préparer ma nécro ou...
pas de ChatGPT.
C'est pas la peine de prendre ChatGPT. Vous demandez à Frédéric Simotel, il connaît mieux tout que moi mon parcours. Justement, revenons à ChatGPT et cette tendance qui est en train d'exploser sur Amazon, ce sont des livres écrits par ChatGPT. On recense d'ailleurs déjà plusieurs centaines de romans, de manuels techniques ou d'histoires pour enfants dont l'auteur est une intelligence artificielle. C'est un phénomène qui risque de bouleverser le monde de l'édition. Écoutez Anthony Morel qui nous en parle.
La recette, elle est assez simple à répliquer. Il suffit de donner deux ou trois éléments de scénario à ChatGPT, de lui demander d'écrire une histoire. On peut même spécifier le nombre de pages et en quelques minutes, on se retrouve avec un livre clé en main qu'il ne reste plus qu'à auto-publier sur la plateforme Kindle d'Amazon. On peut même leur demander d'imprimer le livre pour nous. Donc, c'est vraiment extrêmement, extrêmement facile. L'agence Reuters recense 200 livres sur Amazon pour lesquels ChatGPT est crédité comme auteur ou comme co-auteur. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de cas où personne n'a cité ChatGPT, mais ça a quand même été écrit par une intelligence artificielle. Et derrière ce petit business, c'est tout un secteur économique qui va devoir s'adapter. Aux États-Unis, par exemple, certaines revues qui publient des auteurs commencent à refuser toute nouvelle soumission de texte en se rendant compte qu'on leur propose de plus en plus de contenus qui sont générés par une intelligence artificielle, en espérant comme ça gagner quelques dollars facilement. La Guilde des auteurs qui défend les écrivains américains demande aux plateformes de se pencher sérieusement sur la question en partant du principe que les algorithmes vont voler le travail des écrivains. Amazon botte en touche. Tous les livres vendus respectent nos directives en matière de contenu, dit la plateforme, y compris en respectant les droits de propriété intellectuelle. Sauf qu'en fait, il y a un énorme flou juridique. Personne n'a encore la réponse sur la façon dont les outils comme ChatGPT, qui puisent leur inspiration sur Internet via des milliards de sources, mais qui sont générés par des humains, enfreint en réalité les droits d'auteur. Pas facile de trouver la riposte, mais après le fait maison dans les restaurants et les boulangeries, peut-être que bientôt on aura un fait par un humain à poser sur les livres pour garantir leur qualité et leur authenticité.
Des livres entiers que l'on peut acheter, qui sont imprimés sur Amazon et qui, dont la plume est ChatGPT. Est-ce que ça vous inspire, messieurs? C'est effrayant. Alors, je sais que tu écris, Jean.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses?
Comme quelques millions de Français, mais écoute, il y avait une collection à l'époque qui doit toujours un peu marcher, qui s'appelait L'Arlequin. C'est une collection de romans plutôt à l'eau de rose. Et on s'est toujours demandé si au fond tout ça ne fonctionnait pas avec un ordinateur, parce que avec une femme heureuse et une femme malheureuse, un amant, pas d'amant, etc. Enfin bon, voilà. Et on peut imaginer que sur à peu près tous les genres.
Tu connais bien les histoires d'Arlequin, visiblement.
Bah oui, non, mais moi, c'est mon prof de français qui m'en parlait quand j'étais en seconde, et ça m'avait toujours marqué. Je me suis dit, tiens, s'il y avait un ordinateur qui créait des romans. Effectivement, aujourd'hui, le cas, et c'est la grande distinction quand même entre le roman de genre et ce qu'on peut appeler le roman de style, c'est-à-dire une voix, une présence, quelqu'un qui est derrière et qui donne envie envie de lire, parce qu'on sent qu'il y a de l'humain, mais peut-être qu'on a aussi envie de lire quelque chose qui est bien ficelé, mais je pense qu'on doit sentir le côté plus décharné. La synthèse ne fait pas un roman, quoi.
Ce qui est gênant, c'est je crois que ces livres sont même pas signalés, écrits par une intelligence artificielle.
Il y en a qui sont.
Alors certains
écrits,
le sont.
Il y en a où c'est écrit certains le sont. Auteur ou co-auteur. Mais peut-être probablement que certains ne le mettent pas.
Bon, c'est des romans policiers, ils trouvent peut-être des intrigues qu'on ne pourrait pas imaginer. Pourquoi pas?
Oui, après, c'est vrai qu'il y a des. Tu en parlais, il y a des recettes qui marchent, et c'est vrai dans la musique depuis plusieurs années maintenant, où on sait très bien que les morceaux de plus de 4 minutes marchent moins bien que ceux de moins de 3, qu'il faut plutôt mettre 2 couplets et un refrain, qu'il vaut mieux mettre une star d'un style et une star d'un autre style, ce que font les Américains très bien, avec toujours en latino, en americano. Donc bon, on sent bien qu'il y avait déjà un peu une industrialisation de la production artistique pour les masses. Donc effectivement, est-ce qu'on peut faire du mass market de livres avec ChatGPT? Probablement.
Il y a un côté mathématique.
Le roman de gare, quoi.
Côté mathématique, il y a Borges par exemple, il parlait du tableau de Mendeleïev, le fameux tableau de physique-chimie appliqué à des intrigues romanesques. On peut développer ça comme ça. Si on prend même de la musique, vous prenez Bach par exemple, les variations Goldberg, on pourrait dire que c'est presque des algorithmes, c'est finalement une mélodie assez simple qui est recomposée, remaniée avec des variations, donc c'est un côté mathématique.
Non, mais après on peut imaginer pourquoi pas des romans que l'on pourrait créer à la demande. Finalement, vous avez envie, je sais pas moi, d'un roman d'anticipation qui se passe en 2050 avec une histoire d'amour, peut-être une exploration spatiale, un petit peu d'horreur, etc. Vous donnez tous ces ingrédients. Tu vois ce que je veux dire? Vous donnez tous ces ingrédients à ChatGPT, paf, il vous sort un truc, et vous dites tiens, à la manière de Stephen King, et boum, vous vous retrouvez avec un roman qui peut-être pourrait tenir la route.
On a déjà des intelligences artificielles qui font ça avec des peintures. J'aimerais Paris sous la neige à la façon de Van Gogh. Et hop là, c'est...
Non, c'est vrai que c'est effrayant. Maintenant, on les voit, etc. Aujourd'hui, Amazon, on a l'impression qu'ils ont anticipé ça. Heureusement qu'il y a des reviews pour nous pour voir à quel point est-ce que le livre a été apprécié ou pas. Il y a des gens qui vont se faire de l'argent facilement. Maintenant, voilà, s'il y a un livre.
C'est un effet de mode, je pense.
Qui a été lu 1000 fois, où il y a eu 5 étoiles, qui soit écrit par ChatGPT ou quelqu'un d'autre, moi, j'ai pas de problème à le lire s'il a été par une intelligence artificielle et que l'intrigue est bonne.
Je
lirai sans problème.
Exactement.
Et ça peut peut-être aider aussi après les scénaristes, les romanciers. C'est-à-dire, à partir de ce résultat qui est déjà sans doute intéressant, vous rajoutez leur touche. Gagnez un peu de temps.
Messieurs, bientôt 21h30. On va revenir dans un instant pour continuer à débriefer l'actu de ce soir. Et on va revenir sur TikTok, qui est dans le collimateur de la Commission européenne. On en parle dans quelques instants. Je vous rappelle que Tech & Co, c'est chaque soir sur BFM Business, 20h-22h. On revient juste après l'info éco. A tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le débrief de l'ActuTech en ce jeudi soir avec, ce soir, sur le plateau de Tech & Co, Salim Assad, associé chez Newfound, Ben Marel, dont c'est le grand retour, président et cofondateur de Briga, Jean Chambure, président du Bureau des Éveilleurs, et Frédéric Simotel, donc journaliste à BFM Business. Frédéric, on va évoquer maintenant ces études qui mettent en avant, en fait, l'addiction des réseaux sociaux auprès des jeunes. Alors, l'addiction, mais aussi après, évidemment, tous les travers, c'est-à-dire le harcèlement, les situations de faiblesse mentale, enfin ça l'hypnotisme aussi que ça provoque, je sais pas si vous avez vu, enfin même j'ai testé TikTok, on voit plus le temps passer. Votre cerveau est nourri comme un bonbon. Lucas Perraudin le dit très bien. En fait, les vidéos que vous scrollez comme ça sont toutes vraiment calculées par les algorithmes pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible. Et voilà, donc c'est catastrophique. Il y a des études aux US qui commencent à se poser des questions là-dessus.
Oui, c'est une étude de la CDC, alors qui est attendue chaque année, une étude sur l'état de santé mentale des jeunes. Et ils se sont rendus compte que les jeunes femmes allaient beaucoup moins bien.
Les jeunes femmes.
Alors, les jeunes d'une façon générale, mais les jeunes femmes beaucoup moins bien que les jeunes hommes qui, eux, ont aussi des difficultés, mais beaucoup moins que les jeunes femmes. Et notamment dans tout ce qui est des phénomènes de dépression, ce genre-là. Et ils ont associé ça il y a tout un parcours scientifique. Ils n'ont pas juste dit oh tiens ça doit être les réseaux sociaux. Non, il y a vraiment tout des questionnaires, des choses qui sont assez poussées, et ils sont allés jusqu'à dire après on met ça en grande partie sur le dos des réseaux sociaux parce que il y a du paraître, parce que on voit les autres qui font des choses formidables et puis nous bah on a une vie médiocre. Qu'on juge médiocre mais qui est tout à fait normale et donc et certains la fin de l'article est assez intéressante, c'est de se demander si il y a un moment il y aura pas des plaintes, des class actions qui seront montées contre certains réseaux sociaux comme on a eu il y a quelques années contre des fabricants de cigarettes, quoi. De dire les jeunes ne doivent plus vendre des cigarettes.
Ouais, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont dangereux pour la santé. Mm-hmm. Au bout d'un moment, il faut que les réseaux sociaux payent parce que.
Et on l'a vu aussi pour les vaporettes, les cigarettes électroniques. Hein, il fallait pas les vendre aux jeunes. Enfin, fallait pas que ce soit montré comme un amusement. Enfin, vraiment leur dire, c'est comme une cigarette, quoi. C'est juste.
Et c'est pas une analyse récente. Hein. Il y avait déjà dans un documentaire, sur une des plateformes.
Là, c'est parce que l'étude est sortie. La nouvelle version de l'étude vient de sortir.
Ouais, mais tu vois, il y avait déjà un reportage qui est documentaire. Il y a 3 ans déjà où quand tu colles un peu comme la cigarette et le cancer du poumon, quand tu colles les courbes de utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes filles et l'anorexie chez les adolescentes, elle est exactement corrélée. Donc tu vois, c'est pas nouveau comme thématique et effectivement on voit bien que oui, ça renvoie une image qui est une image complètement distordue de la réalité et que quand on est à un âge où on est justement en train d'essayer de se construire, on est dans une fragilité mentale et émotionnelle qui fait que les jeunes visiblement ont du mal à encaisser le coup. Et donc moi je rejoins complètement le propos, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que tu vois, ces grandes sociétés qui s'enrichissent en plus sur le dos de ces jeunes, parce que si on te fait rester c'est quand même pour te faire bouffer de la pub, c'est pour ça qu'on te fait rester.
C'est pas pour te faire plaisir.
Exactement, donc c'est à elles de payer les conséquences de ces sujets-là, et puis c'est aux régulateurs aussi de faire en sorte que y ait une forme de contrôle, qu'on ne puisse pas justement amener pendant très longtemps quand même sur la télévision il y avait des contenus en fonction de l'heure, il y avait des contenus en fonction de l'âge. Aujourd'hui les réseaux sociaux c'est le Far West,
il y avait un sticker,
aujourd'hui c'est le Far West, donc c'est quand même, ça serait la moindre des choses que ça puisse être un peu contrôlé.
Salim ?
Moi, j'ai du mal à croire qu'en fait, que ce soit la même chose qu'avec le tabac. Enfin, quand on se rappelle de ce qui se passait dans le tabac dans les années 50-60.
Après, c'est pas le phénomène d'édition, c'est le phénomène de dire qu'un jour, ils vont s'attaquer aux
réseaux. Mais même de ce point de vue-là, je crois que les publicités dans les années 60-70 sur le tabac, on disait aux gens, allez fumer, c'est bien pour votre santé, c'était des publicités non seulement mensongères, mais trompeuses.
Allez fumer, c'est bon pour votre santé, les gars.
Parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, quand il y a de l'abus, il y a du mauvais, il y a une corrélation qui est complètement inverse entre le temps qu'on passe et le bonheur dans la vie, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, dépression, enfin tous les mots, etc. Mais effectivement, il y a aussi des aspects qui sont positifs. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on rentre dans un réseau social, donc ça permet de connecter avec des gens. Si on le fait de manière sensée et qu'on n'abuse pas, effectivement, il y a quand même des aspects qui sont relativement positifs. Donc j'ai du mal à croire que ça devienne, qu'on puisse avoir la même chose qui s'est passée contre le tabac ou. J'avais vu un article la dernière fois où une femme avait récupéré 10 ou 15 milliards de dollars pour avoir accusé une compagnie, un vendeur d'une marque de tabac, parce qu'il n'y avait pas indiqué sur la marque.
Fumais-tu
ou pas, parce qu'ils avaient fait une publicité mensongère sur le risque du tabac. Est-ce qu'on va en arriver là pour les réseaux sociaux? Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. C'est quand même beaucoup plus difficile de mesurer. Il y a quand même des aspects qui sont relativement positifs si on les utilise à bon escient.
Oui. Sauf qu'il y a des abus. Et quand t'as 12, 13 ans, et que tu es une jeune fille et que tu as tout, comme le disait Ben, tu es en train de te construire et que tu vois des jeunes femmes un peu plus âgées qui ont un train de vie luxueux,
qu'elles font juste des vidéos,
qui ont encore non pas parfait mais qui matchent avec cette notion de perfection qu'elles essaient de renvoyer, c'est pas bon ça peut provoquer des dépressions, enfin des mal-être qui, enfin je sais pas Jean ce que tu en penses, mais
oui, moi je partage beaucoup ce que vous avez dit c'est la concentration. C'est fondamental quand même la concentration. Et c'est évidemment l'adolescence, un âge où on apprend à se concentrer, à lire par exemple, à suivre un cours.
À écrire.
Et à écrire. C'est quand même des éléments absolument nécessaires pour une réussite professionnelle, une réussite sociale, la réussite qu'on souhaite. Bon. Donc ça, les réseaux sociaux, c'est quand même, on a eu beaucoup de livres là-dessus, très dangereux. Potentiellement très dangereux. L'autre aspect, c'est bien sûr le miroir, que ça, le reflet, l'exacerbation de l'image, etc. Un point sur la Chine, juste pour revenir sur TikTok. Oui. Donc, TikTok en Chine, c'est Douyin. C'est un autre réseau social, c'est pas le même nom. Oui. Alors non seulement, effectivement, le gouvernement chinois met des règles assez strictes sur l'usage de ces réseaux sociaux avant 18 ans, c'est plus contraint, mais le contenu même de Douyin, donc du TikTok chinois, n'est pas le même. il y a beaucoup plus de contenus éducatifs qui sont poussés sur ce TikTok, à tel point qu'il y a eu justement des informations à un moment donné qui comparaient le TikTok occidental et le TikTok chinois en disant est-ce que ce TikTok n'est pas là pour nous abrutir tous parce qu'ils nous envoient plein de publicités de gaming en Occident et en Chine ils sont plutôt là pour instruire. Bon, je pense que ça va peut-être un peu loin, mais enfin, à noter quand même que c'est pas le même contenu. Voilà.
Mais parce que le gouvernement là-bas veille au grain, en fait.
Ah ben oui, oui, oui. Et pour le coup, enfin moi je trouve que c'est une responsabilité. Ouais. Ils sont plutôt en avance. Ils sont sur une responsabilité sociétale. Mmh. Et nous, on est encore un petit peu trop dans la fascination, je trouve, pour un certain nombre de dirigeants.
Oui. C'est vrai que comme le nom l'indique, c'est quand même un social média et que historiquement les États ont toujours contrôlé les médias d'une façon ou d'une autre. Donc sans être dans la censure, bien sûr, mais il faut arriver à ce qu'il y ait une forme de contrôle. Quand on regarde le temps passé par les gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est dangereux qu'il n'y ait pas une forme de...
Le mot média est terriblement traître. Ouais. Terriblement traître. Média, médium, c'est l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, c'est celui justement, c'est le journalisme, ce sont les médias, c'est ceux qui sont là pour analyser, faire le prisme et décider. Les réseaux sociaux ne sont pour moi pas du tout des médias sociaux.
Et puis
c'est tout le monde qui s'exprime.
C'est là que les jeunes vont rechercher l'information.
Et c'est vrai.
Malheureusement.
Donc on peut dire, in fine, c'est un média parce que tout le monde va chercher. C'est vrai, mais il y a quand même une grosse nuance.
Ils vont chercher l'information et puis il y a une méconnaissance d'une façon générale du public, des parents, des profs, où souvent, quand on voit quelqu'un sur un écran, on se dit, ça y est, il est intégré dans le monde du futur. Souvent, on entend souvent ça. Bah, lui, mais il est sur des écrans depuis. Il va devenir développeur informatique. Oui, il est sur les écrans depuis 5 ou 6 ans. Non, en fait, il deviendra jamais. Il fera autre chose. Cette illusion de dire que comme il manipule très vite, alors ça va changer avec les générations qui arrivent, mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est que souvent on laisse les grands-parents peuvent laisser leurs enfants, leurs petits-enfants quand ils sont là sur les écrans à fond, dire oh là là, ils sont forts, ils manipulent ça avec une dextérité. Ça fait un peu ancien ce que je dis, mais il y a cet effet-là à jouer. Alors on espère qu'il va jouer, mais moi je suis assez pour. On demande aux parents maintenant de plus en plus dans les écoles, il y a des. Soit au collège, mais ça au primaire.
De sensibiliser en fait sur ces problèmes.
De sensibiliser à tout ça, de sensibiliser aux usages et de sensibiliser les parents surtout, de dire déjà regardez ce que font vos enfants, parce que tout le monde ne le fait pas forcément, à quoi ils ont accès, est-ce qu'ils ont créé des comptes, on découvre qu'ils ont créé des comptes alors qu'on n'était pas, enfin on n'était pas au courant.
Et puis il faut 30 secondes pour créer un compte aujourd'hui.
Et puis qu'est-ce qu'il faut. Et derrière, c'est peut-être là où il faut une réglementation, tu vois, savoir que quand un gamin de 12 ans peut créer un compte Snapchat. Je suis désolé, mais là, je vois le patron de Snapchat, je dis c'est pas normal.
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les mots sont gravissimes, mais les solutions sont très compliquées. On est à court de solutions face à ça.
On le voit comme, par exemple, l'interdiction du porno pour les mineurs. En fait,
c'est des réseaux qui sont internationaux avec des lois locales.
Il faudrait peut-être des cours d'instruction numérique. Ouais. À un moment donné, on vit dans un monde qui est quand même complètement régenté par
la fois pour les enfants, mais aussi pour les parents, comme le dit Fred.
Mais qu'il n'y ait pas.
Parce qu'il faut que les parents comprennent ce qui se passe.
Qu'il n'y ait pas un peu de recul et d'instruction, un programme qui soit fait dès la seconde, voire même un peu plus tôt en sixième. Alors, on débat parfois sur l'utilité des cours de technologie. Moi, je pense que c'est utile, mais c'est vrai que parfois, il y a des cours qui sont sujets à débat. On pourrait prendre peut-être un petit peu d'heures de cours pour mettre, pourquoi pas, de l'instruction numérique.
Oui. Il nous reste 2 minutes. Je voulais qu'on réagisse aussi sur cette enquête assez intéressante. On se rend compte qu'il y a une discrimination entre les utilisateurs d'Android et les utilisateurs d'iPhone. Je ne sais pas si vous avez vu ça, notamment encore une fois chez les jeunes Américains, qui vont peut-être rejeter ceux qui, en envoyant leur message par Android, se retrouvent avec une petite bulle verte, alors que ceux qui ont un iPhone ont une petite bulle bleue. Je sais pas si. Alors, on reçoit tous des messages, hein. Et c'est vrai que sans le vouloir, on se dit, bah tiens, lui, il a un iPhone, lui, il a un Android, etc. Et en fait, aux États-Unis, chez les jeunes, c'est un marqueur, et c'est une appartenance, en fait, à un niveau social élevé si tu as la bulle bleue. Mais en revanche, t'es un loser si t'as la bulle verte.
Et ça n'a. Je trouve que ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça chez les jeunes. Avant, c'était la paire de baskets qui coûtait 100$. Jusque maintenant, ça coûte 1400 encore. D'avoir le dernier iPhone. Donc c'est. Enfin, je veux dire, en termes de logique, évidemment, dans la cour de récré, on a toujours envie d'avoir le dernier jean, la dernière paire de baskets. La spécificité des US, c'est qu'ils sont encore sur SMS et pas sur WhatsApp. Donc ils ont des moyens de voir effectivement qui a la pastille verte et bleue. Mais bon, moi, c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement. C'est une tendance qui, je pense, va toujours. On a toujours.
Non, mais c'est dingue, quoi. Enfin, juger quelqu'un, sa position sociale simplement parce qu'on reçoit un SMS bleu ou vert, c'est fou, non, Fred?
Oui, moi, je parle très peu aux gens qui n'ont pas d'iPhone.
C'est pour ça que tu me réponds pas.
Voilà, c'est terrible. Tant qu'il n'aura pas d'iPhone, je réponds pas.
Voilà, Ben, désolé, il faut que tu fasses un petit effort quand même.
Je vais mettre la main à la poche. Écoute, j'ai acheté un iPhone. Il faut ça pour venir ici. Je fais ça.
Il y a tous ces soucis de. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros souci de. Pas de réglementation, mais.
Est-ce qu'on devrait forcer Apple, justement, à se mettre un peu dans les rangs et participer à ce futur du SMS qui s'appelle le RCS, rappelons-le. Hein.
Pas demander à Nike de diviser.
Moi, c'est la réglementation dans les usages, et voilà, c'est plus dans ce domaine-là. Mais pas Apple, ça, c'est plus. On parlait en Chine, là, de bloquer les jeunes qui ont moins de 12 ans, enfin, tout ça. C'est plus travailler sur ces choses-là, travailler sur l'instruction, mais.
Ouais, ça paraît un plus gros problème. Que la couleur du SMS, mais j'entends le point. C'est
ouais, non, mais c'était. Bon,
enfin, voilà. Comprendre que ça mette des jeunes un peu
dans une situation difficile. Merci, messieurs. Ce débrief est terminé. Bientôt 22h. C'est encore une fois très vite passé. Merci à Salim d'être passé. Salim Assad, associé chez Newfound. Ben Marel, président et cofondateur de Briga. Jean de Chambure, donc, du bureau des éveilleurs. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Très belle soirée. Vous retrouverez le best-of de Tech & Co. Tech & Co Business ce week-end aussi avec Frédéric. Et on a le plaisir de vous retrouver dès lundi. Lundi, je serai à Barcelone pour un Tech & Co spécial dédié aux télécoms avec le grand salon le Mobile World Congress. On sera au cœur de ce salon pour évoquer toutes les nouveautés en matière de télécom. On parlera de 5G, mais aussi de smartphones. J'espère que vous serez là. Très bonne soirée et à très vite.